Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 18 septembre 2020 sur Europe 1, écoutez le monde changer. Assiste-t-on à un retour de la politique du chiffre dans la police? Non, disait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a une semaine.
Lorsque j'ai dit qu'on va publier des résultats, je ne dis pas qu'on va publier des chiffres d'activité des services. Je dis qu'on va publier des résultats. Ce n'est donc pas le retour à la politique du chiffre.
Europe 1 vous révèle pourtant ce matin que sur le terrain, le fonctionnement est tout autre. Des instructions écrites et chiffrées, diffusées dans certains départements, l'enquête, les informations de Guillaume Bies, c'est à 7h30 tout à l'heure sur Europe 1. À la une de l'actualité aujourd'hui, le gouvernement qui hausse le ton et qui met en garde. L'épidémie gagne du terrain. Il faut réduire le nombre de personnes que l'on voit chaque jour. Après les masques, les tests, à 7h50, l'édito politique de Nicolas Bétou. Deuxième vague, deuxième échec pour l'exécutif. Réponse à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, l'invité politique d'Europe Matin. Et puis enfin, à votre service, toujours au plus près de vos préoccupations, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, c'est à 8h35. Qu'est-ce qu'un cas contact? Quand aller se faire tester, quand retourner au travail, des réponses précises aux questions que vous vous posez. La culture à l'honneur ce matin sur Europe 1. Dans ce contexte, est-ce que vous allez participer aux journées du patrimoine? C'est ce week-end, à 8h on va faire le bilan des premiers lotos du patrimoine. Et puis ce matin, la culture c'est aussi le plus grand musée du monde, le musée du Louvre, qui est obligé de se réadapter, de repenser la circulation dans le musée. Jean-Luc Martinez, président du musée du Louvre, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Voilà quelques éléments du programme ce matin, il est 6h59. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et rebonjour à tous. Vous voulez savoir le temps qu'il va faire?
Bien, éventuellement. Écoutez,
éventuellement, je suis là pour ça. Nous avons pour l'instant un ciel très dégagé sur la France. C'est un temps qui s'annonce pourtant, enfin une journée qui s'annonce à peu près identique à celle d'hier, avec pas mal de soleil. Mais le temps est en train de changer. C'est-à-dire que nous avons sur les régions du sud-ouest, à l'heure où nous parlons, des petites vagues de pluie qui commencent à arriver. Alors elles sont sur le golfe de Gascogne, elles sont en Espagne, elles vont arriver sur le Pays Basque et puis elles vont gagner du terrain sous Piémont-Pyrénées. Et ensuite, elles se dirigeront vers les Alpes. Tout ceci va se passer lentement dans le courant de l'après-midi. Donc, le temps est en train de se modifier. Et durant la nuit prochaine, eh bien, on peut dire que la moitié de la France sera envahie par les orages. Demain, samedi et dimanche, les orages vont traverser le pays. Et nous changeons complètement de système avec l'arrivée de ces pluies assez fortes. Et toujours ces vents de nord-est qui rafraîchissent un peu l'atmosphère. Sous abri, sans tenir compte des vents, il fait actuellement entre 15 et 23 degrés. Cet après-midi, entre 27 et 33.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 7h, bon réveil à tous.
À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installé.
Les propos alarmistes d'Olivier Véran sur la situation en région PACA, un ministre de la Santé qui veut enrayer la propagation du virus avec des mesures plus sévères, mais surtout en appelant chacun à ses responsabilités. Mesures plus sévères à Lyon, notamment, les préfets vont présenter leurs propositions d'ici demain, ainsi qu'à Nice. Tenter de faire plier Bridgestone qui veut fermer son usine de Béthune. Deux ministres font le déplacement lundi pour rencontrer élus et syndicats. Et si on changeait nos meubles? Après avoir passé des semaines enfermés à la maison, vous êtes de plus en plus nombreux dans les magasins d'ameublement dont certains connaissent des croissances à trois chiffres. C'est une enquête Europe 1. Et puis place aux journées du patrimoine à partir de demain. Il n'y a pas que les monuments qu'on peut visiter. Cette année, une quarantaine d'exploitations de foie gras sont ouvertes aux visiteurs. On vous emmène dans le sud-ouest en avant-première.
La crise du Covid pousse la SNCF à réinventer son modèle. L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est à 7h15. Des tensions entre Américains et Chinois au sujet de Taïwan, le regard international de Vincent Hervouet. Le plaidoyer pour l'égalité des primes entre hommes et femmes chez les Bleus du foot, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20, avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Olivier Véran n'y est pas allé par quatre chemins hier. Le ministre de la Santé a joué la carte de la dramatisation en rappelant que l'épidémie de Covid était déjà très active dans notre pays. Il a annoncé des centres de dépistage en renfort dans les grandes villes, dont 20 en Ile-de-France, ou encore la commande de 5 millions de tests antigéniques beaucoup plus rapides.
Mais ce qu'on a surtout retenu, Victor Dolande, c'est le ton du ministre de la Santé, le ton qu'il a employé pour nous expliquer la gravité de la situation.
Oui, il n'a pris aucune pincette. La situation n'est pas bonne du tout à Marseille, Bordeaux, Bordeaux et en Guadeloupe, mais il a rajouté sur la liste des inquiétudes Lyon et Nice, deux villes où Olivier Véran a demandé aux autorités locales de proposer d'ici demain des mesures concrètes pour endiguer l'épidémie. Et il anticipe même en donnant la liste noire des prochaines villes qui pourraient basculer, Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris. Pour marquer encore plus la gravité du moment, le ministre de la Santé s'est appuyé sur la région PACA, une région où il dessine un scénario catastrophe.
Fin septembre, il y aurait 300 patients atteints du coronavirus en réanimation, soit 60% des lits de réa actuellement installés. À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installés.
Mais ce scénario n'est pas inéluctable. Olivier Véran abat sa deuxième carte, celle de l'espoir qui repose sur tous les Français. Respect des gestes barrières, port du masque bien sûr. Il appelle aussi à une réduction des contacts. En clair, les Français doivent essayer de voir moins de monde. Une manière de renvoyer chacun à ses responsabilités.
Victor Delande, vous évoquiez l'exemple de Lyon qui attend de savoir quelles seront les nouvelles restrictions pour freiner le virus. Elles pourraient ressembler à celles qui ont déjà été mises en place à Marseille ou Bordeaux. Jean-Luc Boujon.
Ces nouvelles restrictions sont en cours d'élaboration à la préfecture, mais déjà, les patrons de bars et de restaurants redoutent une fermeture à 23h de leurs établissements, comme Yann Borges, gérant du bar Le Sirius.
Aujourd'hui, déjà, on tourne à moins 50%, donc fermer à 23h, c'est même pas la peine, parce que les gens arrivent à 19h pour l'apéro, à 23h on ferme, ça veut dire que 22h on arrête le service, on bosse pour 3-4 heures, et c'est pas du tout intéressant pour l'établissement, ça tue un petit peu la profession.
Autre crainte, l'annulation pure et simple des grands événements accueillant du public, à l'image de ce qui s'est passé pour la foire de Marseille. Justement, celle de Lyon est programmée dans 3 semaines. Philippe Pasquier, responsable chez l'organisateur G11, s'assure qu'il est possible de la maintenir.
Nous disons au préfet que la foire de Lyon peut se tenir avec toutes les protections sanitaires voulues, puisque nous adoptons les éléments du référentiel de notre profession, auxquels nous rajoutons des équipes qui s'assurent que les publics adoptent bien les gestes barrières, et ça peut se passer très bien. Nous en avons eu la preuve sur les 6 salons que nous avons faits depuis le 1er septembre.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public pourrait aussi être interdit, comme à Bordeaux. Hier soir, les groupes de 15, 20 ou 30 personnes étaient pourtant encore nombreux assis dans l'herbe sans masque sur les berges du Rhône. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et selon les informations du Parisien, le préfet de police de Paris va serrer la vis pour tous les bars qui ne respectent pas le protocole sanitaire. Salles bondées, boîtes de nuit improvisées. Les sanctions vont tomber, y compris la fermeture administrative.
Ce qu'on retient aussi des annonces d'Olivier Véran hier, c'est l'allègement du protocole sanitaire pour les écoles. Un cas avéré n'entraîne plus systématiquement la fermeture de toute la classe.
Le ministre de la Santé demande même aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école en cas de symptômes bénins, comme le nez qui coule. Pour Hubert Salo, qui dirige la Fédération de parents d'élèves, la PEP, le problème, c'est que les règles changent un peu trop vite.
Ben là, c'est une demande faite aux parents, mais en réalité, les parents sont plutôt des exécutants. Hein. Eux, ils sont toujours prêts à mettre leurs enfants à l'école, seulement c'est l'école qui leur disait de ne plus y aller. Alors si maintenant la règle est plus facile, tant mieux pour les parents, hein. Effectivement, ça évitera de se poser des questions. Tous les deux jours, on a une nouvelle annonce, hein. On a des changements au niveau du protocole, au niveau de la façon dont ça va être géré, donc c'est un peu déstabilisant pour les parents. Ils peuvent se dire aussi, mais alors la semaine prochaine, ce sera quoi la règle ?
Hubert Salone, le président de la PEP, au micro de Virginie Riva. Changement aussi pour les professionnels des crèches qui désormais doivent porter le masque en présence des enfants.
7h05 sur Europe 1, le gouvernement fait monter la pression sur le japonais Bridgestone qui veut fermer son usine de Béthune lundi. Deux ministres feront le déplacement pour rencontrer élus et syndicats.
Elisabeth Borne pour le travail, Agnès Pannier-Runacher pour l'industrie. L'idée étant de sauver le site et le plus d'emplois possible. Lionel Gougelot a rencontré Francky, 28 ans d'ancienneté, toute une vie professionnelle et même personnelle dans cette usine.
Il a passé la cinquantaine, mais Francky se présente comme un enfant qui a grandi à l'ombre de l'usine Bridgestone.
Je suis rentré en 93 ici, mon père a travaillé ici, pour nous c'est une famille, moi j'ai connu que ça quasiment.
Et si l'on ferme mon usine, dit Francky, je ne saurais vraiment pas quoi faire.
J'ai travaillé un peu dans le bâtiment avant de partir au service militaire, mais c'est tout, je ne sais rien faire d'autre. Non. C'est dur à dire, hein, mais je ne sais rien faire d'autre.
Il est hors de question que cette usine ferme. On fera tout, on se battra.
Hier, aux portes de l'usine, Francky a écouté les leaders syndicaux qui appelaient à la mobilisation.
L'emploi, c'est le plus important qu'il peut y avoir.
Je suis prêt à me battre, je suis prêt à tout faire. Hein. S'il faut faire des actions pour s'en sortir, je serai le premier à le faire avec les copains. Mais même si je souhaite de tout mon cœur qu'on s'en sorte et qu'on puisse continuer à nourrir nos familles tranquillement. Mais ça me paraît quand même difficile.
La véritable bataille que l'on doit mener, c'est de faire en sorte que cette entreprise continue de vivre.
Et même l'union sacrée des politiques contre le géant japonais du pneu le laisse plutôt sceptique.
On m'a toujours dit quand les politiques entrent dans des sociétés comme ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça sent plus la fin que le début. Et malheureusement, on est plus sur la fin qu'au début, comme vous pouvez le voir.
Et ce week-end, Francky sera sur son poste à la fabrication de pneus en essayant de garder le moral malgré la peur de l'avenir. Béthune, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et hier, c'était la rentrée syndicale pour défendre les emplois et les salaires des défilés et des rassemblements étaient organisés dans 180 villes.
Passer des semaines entre ces quatre murs, ça finit par donner des idées. Faute de déménager, on a envie de changer de décor et ça se vérifie dans les magasins.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête pour Europe 1. Les spécialistes de l'ameublement se frottent les mains. Leur activité a grimpé de 20% par rapport à l'an dernier.
Et oui, les Français n'ont jamais été aussi mordus de déco, canapés, lampes, lits. Ils achètent de tout pour se sentir mieux chez eux, à l'image de Tania.
Je venais juste d'emménager dans un nouvel appartement, tout blanc. Donc à la sortie, j'avais qu'une hâte, c'est de mettre quelque chose sur les murs et de remplir un petit peu cet appartement.
Alors parmi les raisons de cette frénésie, il y a bien sûr le télétravail, voire pour certains, la crainte d'un éventuel reconfinement. L'enseigne Roche-Beaubois a ainsi constaté une hausse des ventes de 125% en juin. C'est le meilleur mois de juin de son histoire. Guillaume Demulier, patron de l'enseigne, était l'invité de la France Bouge hier.
C'est très marquant nos remontées de terrain, nos remontées de magasins, c'est-à-dire des clients depuis le déconfinement qui sont très qualifiés. Ils savent, ils ont étudié, ils ont pensé, ils ont eu du temps chez eux et ils sont prêts à acheter.
Et pour faire de la place à toutes ces trouvailles, les Français ont aussi beaucoup vendu. Charlotte Cadet est la fondatrice de Selency, un site de meubles de seconde main.
Le business plan a été un peu mis de côté au départ du confinement en se disant on va voir ce qui va se passer. On a été très surpris de voir que ça a repris très vite. Là, on est effectivement sur des mois records avec plus de 120-130% de croissance aussi par rapport à l'année dernière.
Une activité record donc. Certaines enseignes ont déjà compensé les pertes du confinement avec l'espoir invraisemblable il y a encore quelques mois de finir l'année dans le vert.
Merci Clément Le Saffre. Enquête que vous avez menée avec Charlotte Barrican. Si l'ameublement a le vent en poupe, les fleuristes ne sont pas à la fête selon les informations d'Europe 1. 2000 ont fermé leurs portes dans toute la France, soit 1 sur 7. On va y revenir dans le journal de 8h.
Un secteur également touché par la crise sanitaire, celui de la production de foie gras dans le sud-ouest. Alors, pour rebondir, il joue la carte du patrimoine.
Et oui, pour la première fois, une quarantaine d'exploitations ouvrent leurs portes au public à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end. Ça a du sens, puisque notamment en Nouvelle-Aquitaine et dans les Landes, les canards font partie du patrimoine local. Visite en avant-première d'un élevage familial avec Stéphane Place dans le rôle du guide.
Un vaste lit de paille fraîche pour ces dizaines de canetons. Ce sera le point de départ de la visite demain dans cette exploitation familiale où de génération en génération, on élève des canards landais en liberté, nourris au maïs de la ferme, qui ouvre ses portes pour la première fois à l'occasion des journées du patrimoine, comme l'explique Emmanuel Dupouille.
On va commencer par une visite de la conotonnière. Il y aura des petits canards de 3 jours. Connaître tout ce qu'il y a sur les élevages, poser des questions. Le gavage que nous allons expliquer, montrer.
Le foie gras, on le goûte ou pas à l'occasion des journées du patrimoine?
Bien sûr que oui. Une dégustation gratuite. Aussi peut-être quelques aiguillettes, cœur de canard.
Enjeu pédagogique, enjeu économique aussi. Après 2 crises aviaires qui ont obligé les frères Dupouille à abattre la totalité de leur cheptel en 2015 et en 2016, rappelle Hervé.
Nous sommes restés sans produire. Les consommateurs se sont un peu détournés du produit. C'était au départ du magret. Maintenant, c'est le foie gras qui part un petit peu moins. Il ne faut pas oublier ensuite que nous avons eu le Covid. 60% de nos débouchés qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Ces journées du patrimoine s'inscrivent dans cette logique de retrouver du consommateur, de faire parler de nous.
Demain, les frères Dupouille attendent 100 de visiteurs sur leur exploitation. Castelnau-Tursan, Stéphane Place, Europe 1.
Quant à Emmanuel Macron, il sera dans le Gers aujourd'hui, pas pour découvrir un élevage de canards, mais pour visiter l'hôtel de Polignac à Condon, l'un des monuments en péril qui a bénéficié du premier loto du patrimoine. Et puis un mot de foot avec Saint-Étienne qui prend la tête de la Ligue 1 après sa victoire hier soir à Marseille 2-0 et Reims qui réussit son retour en Coupe d'Europe et se qualifie pour le 3e tour de l'Europa League face aux Servettes à Genève.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1, 7h11. On revient longuement ce matin sur les journées du patrimoine. C'est ce week-end. À 8h tout à l'heure, le loto du patrimoine. Où en sont les chantiers de restauration? Sous le signe du Covid, la visite culturelle est rendue compliquée. Un invité exceptionnel dans le tête-à-tête Europe Matin, le président du musée du Louvre, le plus grand musée au monde, qui souffre d'une baisse monumentale de sa fréquentation et qui doit s'adapter à cette époque que nous traversons. Jean-Luc Martinez, à 7h40 tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Mais pour l'heure, c'est l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La crise du Covid ne coûte pas seulement des milliards d'euros à la SNCF et par conséquent aux contribuables. Elle oblige la compagnie de chemin de fer à repenser son modèle de fond en comble.
Eh bien oui, car comme dans le transport aérien, on ne sait pas quand aura lieu le retour à la normale, ni même s'il se produira un jour. Exemple, à cause du télétravail, une partie de la clientèle d'affaires s'est évaporée. Alors est-ce qu'elle reviendra quand personne n'est capable de le dire? Or, sans cette clientèle d'affaires, eh bien c'est tout le très fragile édifice financier de la SNCF qui est compromis. Pourquoi? Parce que c'est cette clientèle d'affaires qui fait les recettes du TGV et que sans les recettes du TGV, la SNCF ne peut financer ni son réseau qui est vieillissant, ni les lignes sur lesquelles elle perd de l'argent.
Le patron de la SNCF veut donc repenser le TGV. Ça signifie quoi concrètement?
Alors d'abord, ça signifie qu'il va falloir remettre de l'ordre dans les tarifs, j'allais dire de la clarté. Savez-vous, Mathieu, quel est le prix moyen d'un billet de TGV?
Même pas.
Eh bien, c'est 45 euros. Or, les clients ont l'impression que c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que le système actuel de tarification avec des prix qui changent tout le temps, comme dans l'aérien, en fonction de la date et des horaires, ce système agace. Beaucoup de passagers ont l'impression de se faire avoir. Alors, tant que la demande de billets de TGV dépassait l'offre, eh bien, la SNCF n'avait pas trop de soucis à se faire. Mais aujourd'hui, avec la crise, c'est le contraire. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà pourquoi la direction de la compagnie veut mettre en place une nouvelle politique de tarifs avec un mot d'ordre: faire plus simple et plus lisible.
L'offre de TGV va aussi évoluer.
Oui, parce que de nouvelles rames arrivent, alors pas tout de suite, c'est pour 2023, mais ça changera la donne avec des trains mieux connectés et surtout modulables. La SNCF pourra mettre plus ou moins de wagons par train, ce qui n'est pas possible avec les rames TGV actuelles. Les aménagements à bord seront également revus. Ce sont, on peut dire, les vertus de la concurrence d'autres compagnies de chemin de fer qui pourront exploiter de grandes lignes. La SNCF italienne, par exemple, va desservir Paris, Lyon et Milan. Les Espagnols se mettent aussi sur les rangs. La concurrence, vous le voyez, bouscule la SNCF et donc change le TGV. Après tout, tant mieux.
Merci Nicolas Barré, il est 7h13. Le regard international de Vincent Hervouet à présent. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un sous-secrétaire d'État américain débarque à Taïwan et la tension redouble entre les États-Unis et la Chine.
Il s'appelle Crack, il porte bien son nom. Ce Crack est charismatique, il a fait fortune dans la Silicon Valley. C'est un philanthrope, c'est un conférencier, une sorte de vedette. Au département d'État, il est ministre chargé de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, autrement dit de toute la diplomatie économique. Ce n'est pas Mike Pompeo, mais c'est le plus haut représentant du gouvernement américain qui débarque à Taïwan depuis 40 ans. Le ministre de la Santé avait fait une escale le mois dernier, mais c'était pour s'informer sur le coronavirus, Taïwan étant un modèle dans la prévention de l'épidémie. Et du coup, Pékin s'était contenté de gronder, alors que cette fois, la Chine aboie.
Elle accuse les Américains d'encourager les partisans de l'indépendance de Taïwan dans leur arrogance et leur insolence.
Vous savez, Mathieu, ce que fait le parti avec les insolents et les arrogants, eh bien, il les met au pas. Demandez aux habitants de Hong Kong, c'est ce qui pend au nez des Taïwanais. Le parti communiste semble décidé à braver le monde entier pour asseoir sa domination sur toute la Chine. Il fêtera l'an prochain le centenaire de sa création et ce serait donc un bon prétexte pour régler la question de Taïwan. Il ne parle plus de réunification pacifique, il prétend l'imposer par la force, avec gesticulation en mer, incursion dans les airs, intimidation alentour. C'est vraiment l'escalade.
Les États-Unis relèvent le gant.
Ils ont vendu à Taïwan une soixantaine de F-16 le mois dernier, ce n'est pas arrivé depuis 30 ans. Ils vont ouvrir sur place un centre de maintenance pour toute l'Asie de ces avions de chasse, et puis au large, les destroyers patrouillent. Et avec le ministre Crack, l'heure est à un nouveau dialogue économique. Vraiment, Donald Trump tient tête à la Chine, il est en campagne. Il n'a pas franchi la ligne rouge, la reconnaissance de Taïwan, mais cette guerre froide se réchauffe. Alors est-ce que vraiment les Américains seraient prêts à mourir pour Taïwan? C'est la question que se pose toute l'Asie, le Japon, les deux Corées et les deux Chines qui n'en font qu'une, mais on ne sait pas encore laquelle.
Merci Vincent Hervouet, l'éclairage international, il est 7h16.
Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h19 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
L'équipe de France féminine de football affronte la Serbie ce soir. Un match éliminatoire à l'Euro. Et vous en profitez, Virginie, pour demander à la Fédération française de foot d'accorder les mêmes primes pour les hommes et les femmes en sélection nationale.
Puisque la France n'a pas été précurseur dans ce domaine, qu'elle suive au moins rapidement les pays qui ont lancé le mouvement. Ils sont 5 maintenant à avoir franchi le pas. L'Australie a été la première, rapidement suivie par la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Et depuis peu, ces pays ont été rejoints par l'Angleterre et le Brésil. Oui, que le Brésil soit plus rapide que la France à instaurer une égalité homme-femme en sélection, j'avoue que je n'étais pas forcément prête. On a connu des pays plus libéraux en matière de parité. Et en plus, quand il s'agit de football, football, dans la patrie de Pelé, c'était difficile à imaginer. Pourtant, les joueuses se sont battues et ont réussi à se faire entendre. Vous voyez qu'il y a de l'espoir, hein, mesdames. Un espoir vite douché quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Les Américaines ont déjà été déboutées par la justice pour avoir réclamé l'égalité, même si elles continuent à se battre. Oh, bah, c'est vrai qu'elles n'ont gagné que 4 Coupes du Monde et que Megan Rapinoe et ses coéquipières n'inspirent que des milliers de petites filles, alors que leurs homologues masculins... on ne sait même pas qui ils sont, hein, en gros. Alors si l'égalité et l'espoir engendrés ne viennent pas des États-Unis, que la France joue son rôle et instaure les mêmes primes de match et les mêmes indemnités journalières pour les hommes et les femmes.
Une précision, Virginie, on est bien d'accord que vous faites la différence là, entre les équipes nationales et les clubs sur ce sujet.
Ah bah évidemment, ça ne sert strictement à rien d'être démagogue. On ne va pas demander les mêmes salaires en club pour les footballeuses et les footballeurs. Hein. Ils évoluent sur deux planètes différentes. Les clubs sont des entreprises privées. Les joueurs ont une valeur marchande bien supérieure. Leur image se vend partout. Les matchs sont suivis dans des proportions qui n'ont bien sûr rien à voir. Donc on ne va pas raconter n'importe quoi et réclamer l'égalité salariale. Ça risquerait en plus d'être beaucoup plus néfaste que bénéfique. Mais là, on parle des sélections nationales. Les joueuses et les joueurs représentent un pays, en l'occurrence la France. Que les primes soient les mêmes pour tout le monde me semble juste logique. C'est aussi le rôle de notre pays d'œuvrer pour l'égalité. Pour ça, il faut la volonté d'ouvrir la voie à la parité. Franchement, si le Brésil l'a fait, la France devrait y arriver aussi, non ?
Le message est passé. On verra s'il est reçu. À bon entendeur. Virginie Fulpin, vous avez tellement raison. Les Américains, en plus, les Américaines, le soccer, c'est un sport féminin là-bas aux États-Unis. C'est elles, les stars.
Disons qu'elles ont légèrement plus gagné que leurs homologues masculins,
légèrement,
je crois.
Si peu. Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, tous les matins, autour de 7h20. Et juste après, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, 18 septembre, c'est pour bon nombre d'historiens la date de la première loi qui sépare l'Église et l'État. En 1794, la Convention nationale supprime le budget de l'Église constitutionnelle en précisant que la République ne salarie aucun culte. Et pourtant, si l'État prend ses distances avec l'Église, beaucoup d'expressions comme « pleurer comme une madeleine »,« la croix et la bannière », la position du missionnaire ont une origine religieuse. Celle sur laquelle je voulais zoomer ce matin est « une de perdue, 10 de retrouvée ».
Ah, ça c'est la fameuse phrase des amis qui tentent de consoler une personne qui vient de redevenir célibataire.
Exactement. Au XIIIe siècle, on utilise couramment l'expression « une de perdue, 2 de retrouvée ». Mais avec l'inflation, on est passé à 10. C'est d'une manière générale l'occasion de dire que parfois, on remplace facilement quelque chose qu'on a perdu et que l'on croyait jusque-là très précieux. La formule vient de l'évangile selon saint Luc et de la parabole de la pièce perdue. Une femme possède 10 drachmes, elle en perd une, elle la cherche dans toute la maison et finit par la retrouver avec joie. Cette parabole signifie que les croyants doivent tout faire pour retrouver les brebis égarées et se réjouir quand un pécheur se convertit. On est bien loin, vous le voyez, de la consolation d'un célibat subi qui deviendrait une occasion de multiplier les conquêtes. D'ailleurs, est-ce que ce dicton marche ? Pas sûr.
Je vais pas répondre.
Il vaut mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur et ne jamais oublier que quand on aime, on ne compte pas.
Et Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Vôtre. Quel est le programme du jour ?
Des immortels aujourd'hui, Mathieu. Le comte de Saint-Germain qui aurait trouvé l'élixir de la jeunesse éternelle. L'immortel en habit vert Marguerite Yourcenar, première femme à être entrée à l'Académie française. Et Lara Fabian.
Elle est immortelle ?
La preuve. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1.
On termine en musique en plus, c'est bien comme ça. Lara Fabian, voilà qui va rappeler quelques souvenirs à certains de nos auditeurs, de nos auditrices. Merci Stéphane Bern, Historiquement Vôtre, c'est tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. Avec Mathieu Noël, il est 7h24. À suivre, la météo avec Laurent Cabrol bien sûr, et puis un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echenne. Cette information Europe 1 à la une, Gérald Darmanin garantissait qu'il n'y avait pas de retour de la politique du chiffre. Sur les faits, sur le terrain, c'est un peu différent, vous allez l'entendre. Le jour est en train de se lever sur Europe 1 à 7h27, la météo avec Laurent Cabrol.
Et si nous demandions à nos amis de lever les yeux au ciel, regardez sur... Attention, si vous êtes en voiture, attention.
Oui, s'il vous plaît. Garez-vous, faites ça correctement, s'il vous plaît.
Levez les yeux au ciel parce que le ciel est dégagé sur la France à l'heure où nous parlons. Ça ne va pas durer, il faut profiter de cette journée, il faut profiter de cette matinée surtout, puisque le ciel restera quand même très clair, avec certes des vents autour de 60-70 km/h sur la Manche, ils ne sont pas très sympas parce qu'ils rafraîchissent bien l'atmosphère. Et sur la moitié nord, autour de 40 à 50, là aussi, pour les mêmes raisons, ils rafraîchissent l'atmosphère. Alors, pourquoi faut-il se dépêcher ? Bien parce que les orages arrivent. D'ailleurs, à Biarritz, ce matin, à 5h, il faisait 25 degrés. C'est dire si le temps est lourd, le temps est pesant, le temps est chaud et les orages viennent d'Espagne. Ils vont atteindre les régions du sud-ouest, en particulier le Pays Basque. Ensuite, le Piémont pyrénéen. Et ces orages vont progressivement gagner une grande partie ouest de la France dans la journée de demain. On n'en est pas encore à demain. Tenez, je vais vous donner les températures pour aujourd'hui, si vous le permettez. 26 à Caen et à Lens, 27 à Belfort, 28 à Strasbourg. Aujourd'hui, hein, sous abri, attention, sans tenir compte du vent. 29 à Marseille, 31 à Paris et Rennes, 32 à Dijon et Toulouse, comme à Clermont et Lyon, 33 à Nevers et 34 degrés à Montluçon. Voilà pour les températures. Demain, donc, disais-je, nous allons voir arriver ces orages. Attention, attention. Sur le Languedoc, et entre le Languedoc et les Cévennes, vous avez ce que nous appelons un épisode cévenol qui se prépare. Épisode cévenol, ça veut dire que les pluies sont très fortes entre la mer et les Cévennes. Et s'il est vraiment comme on peut l'imaginer, il va falloir faire très 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 attention. Et puis, progressivement, dimanche, les pluies vont gagner toute la France. On peut dire que pratiquement tout le monde sera concerné par les orages. Et ce sera dans la journée de dimanche. J'en termine, pardonnez-moi, avec une dernière parenthèse. À partir de mercredi prochain, nous aurons vraiment baissé le thermomètre. Il sera vraiment très 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 de saison, 25, 26. Et alors, à ce moment-là, attention, il y aura peut-être un changement de temps. C'est-à-dire que nous mettrons un pied dans l'automne.
Dans l'automne, ça y est. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Il est 7h29.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lorsque je dis qu'on va publier des résultats, je ne dis pas qu'on va publier des chiffres d'activité des services. Je dis qu'on va publier des résultats. Ce n'est donc pas le retour à la politique du chiffre.
Après ces déclarations de Gérald Darmanin, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Des instructions diffusées dans les commissariats contredisent les propos du ministre de l'Intérieur. Le coronavirus et l'angoisse des EHPAD face à la deuxième vague. Le personnel déjà épuisé se dit très inquiet. Le coup de gueule de l'ONG Foodwatch contre les emballages alimentaires remplis d'air. Et puis c'est une institution qui aura résisté au virus. Cette année encore, la caravane du Tour de France a ouvert la voie au peloton.
2 mois de confinement, 6 mois de crise sanitaire et une rentrée dans le doute. Jean-Luc Martinez, le président du musée du Louvre, invité du tête-à-tête Europe Matin après ce journal. Covid, deuxième vague, deuxième échec pour l'exécutif, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou à 7h50. Avant de retrouver Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk, ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1, il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de politique du chiffre dans la police, mais une politique du résultat. Si la nuance est claire pour Gérald Darmanin, elle ne l'est pas pour le syndicat Alliance qui dénonce une dérive sur le terrain.
Cette fameuse politique du chiffre semble bien de retour. Des instructions écrites, chiffrées, ont été diffusées dans certains départements, Guillaume Biais.
Oui, ça concerne les nouvelles amendes forfaitaires pour simple usage de stupéfiants. Prenez par exemple cette note de service dans le Rhône, où un responsable réclame noir sur blanc que telle unité fasse 2 verbalisations par jour, telle autre, 1 verbalisation chaque jour. Autre note, en Meurthe-et-Moselle, où les mots du ministre « exigence de résultats » sont soulignés et où l'on peut lire, je cite, « Il est inconcevable que certains services n'aient encore réalisé aucune amende forfaitaire » et s'ensuit la liste des villes du secteur avec pour certaines un 0 pointé. La contradiction est flagrante avec le discours de Gérald Darmanin, c'est ce que dénonce Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance.
Les policiers sont un peu en colère parce que ça n'a pas mis 10 jours avant qu'on se retrouve avec des notes. Alors, il faut que le ministre recadre l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour dire qu'il est hors de question de revoir fleurir ce type de notes qui poussent à la bâtonnite et qui surtout sont des outils de management et de mise en pression des effectifs sur le terrain.
Alors, au ministère de l'Intérieur, on assure que ces exemples que je vous ai cités sont des initiatives locales, qu'il n'y a aucune consigne nationale en ce sens. Il n'empêche, la hiérarchie demande aux policiers des remontées quotidiennes pour remplir des tableaux chiffrés.
Guillaume Bied du service Police Justice d'Europe 1.
L'épidémie de coronavirus et la hausse des contaminations qui se poursuit. Encore près de 10 600 nouveaux cas enregistrés hier. Un record.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, met en garde contre la résurgence du virus dans certaines zones du pays après la Gironde et les Bouches-du-Rhône. Les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes vont devoir durcir les règles sanitaires. Ils remettront leurs propositions au gouvernement demain.
Olivier Véran qui rappelle également les dangers du coronavirus pour les publics à risque, les personnes âgées notamment. « Protégez-vous », a redit hier le ministre de la Santé. 12 résidents d'un EHPAD de l'Aveyron sont morts en une semaine.
Et face au déferlement d'une deuxième vague, les professionnels déjà au bord de la crise de nerfs se disent très inquiets. Exemple dans cette résidence pour personnes âgées d'Ifincic en Ille-et-Vilaine. Pas de cas de Covid dans cet établissement pour l'instant, mais la tension est palpable. François Coulon.
Elle se dit beaucoup plus inquiète qu'au printemps. Laura Terrard, infirmière à l'EHPAD Le Bon Accueil d'Ifindic, déplore une tendresse dangereuse, trop souvent sans gestes barrières.
On voit beaucoup de familles qui ont tendance à retirer les masques, faire des câlins, faire des bisous. Donc c'est des choses qui nous font peur. C'est super inquiétant pour la suite. J'ai peur qu'on puisse être submergé par le virus.
37 résidents de 75 ans à 100 ans ici, épargnés par le Covid, mais le département est classé rouge depuis une semaine, zone de circulation active du virus. Laurent Pérègne, directeur de l'établissement.
C'est beaucoup plus anxiogène aujourd'hui parce qu'on se dit, à nos portes, on a des cas de Covid, ces gens-là sont susceptibles à un moment donné d'être entrés dans nos établissements. On a peur. Il y a un épuisement des équipes et on ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir si vraiment la situation devait s'aggraver. Dans une période où on va commencer à voir apparaître des grippes, des gastro-entérites, etc., nos équipes vont être en tension. L'hiver va être très long. S'il nous manque par exemple 3 ou 4 aides-soignantes, comment on fait si on ne trouve pas de remplaçant? C'est aujourd'hui la crainte majeure.
L'ARS a imposé 2 personnes maximum par visite et demande aux EHPAD de réactiver le plan bleu qui permet de renforcer le suivi des résidents. Ifindic, François Coulon, Europe.
Et justement, les personnes âgées et leur place dans notre société, c'est le sujet du deuxième épisode des Éclaireurs, votre podcast, Mathieu, à découvrir aujourd'hui. Pour l'écouter, rendez-vous sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes habituelles. Il faudra environ 2 ans à la SNCF pour retrouver son niveau de trafic d'avant-crise. Estimation du PDG de l'entreprise ferroviaire, Jean-Pierre Farandou. Les courbes repartent à la hausse, mais à vitesse lente. Le trafic TER, notamment, est en recul de 30 à 40%.
Il est 7h34 et sur Europe 1 ce matin, je voudrais que vous fassiez une petite expérience à la table du petit déjeuner. Prenez la boîte de céréales, la boîte de biscottes, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'ouvrir une boîte remplie d'air?
Les emballages pleins de vide, c'est ce que dénonce Foodwatch dans une pétition à l'occasion du lancement de la semaine du développement durable aujourd'hui. L'organisation de défense des consommateurs cible 7 marques en particulier. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Alors quels sont les produits mis en cause par Foodwatch?
Il y a par exemple un paquet de céréales et quinoa de chez Barilla rempli seulement à 40%. Les céréales crunchy de Carrefour dont le paquet en plastique est vide à 50% selon les calculs de Foodwatch. Il y a aussi des produits bio comme le taboulé Léa Nature, mais le produit qui contient le plus de vide, selon l'enquête, ce sont les dés de saumon de la marque repère de Leclerc. 68% d'emballage sans rien dedans.
Là, en tant que consommateur, vous vous imaginez face au rayon saumon?
Camille Doriot, responsable des campagnes de l'ONG.
On voit tous les tranches de saumon qui ne vont pas jusqu'au bout de l'emballage, mais comme c'est cartonné partout, on le voit pas trop. Et ben là, ces dés de saumon, ils sont particulièrement vides et c'est le record absolu. C'est une compétition à qui aura le plus gros emballage dans le rayon pour montrer son produit aux consommateurs.
La direction des magasins Leclerc n'a pas voulu commenter cette enquête. Foodwatch appelle les consommateurs à leur signaler d'autres produits partiellement vides pour faire pression sur les industriels. L'objectif, c'est de faire en sorte que les camions, les bateaux arrêtent de transporter 25% de vide. C'est l'estimation du cabinet Forbes Insight. Ça représente 60 millions de conteneurs par an transportés pour rien entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, l'équivalent de 5 ans du trafic aérien français.
Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Le Tour de France entame sa dernière ligne droite. 19e étape aujourd'hui entre Bourg-en-Bresse et Champagnole. Malgré la situation sanitaire, il y a une institution qui aura résisté, la traditionnelle caravane, elle aussi soumise à des protocoles sanitaires stricts. Marguerite Lefebvre.
C'est un rituel qui a repris ses droits dès le début du tour. Le lancer de bob, de casquettes, de porte-clés, la caravane, c'est l'attraction qui fait patienter le public, masqué cette année à l'image de Marie-France.
C'est très très bien les animations que l'on a là, en prenant les précautions, on distribue des masques à tout va, ça amène le monde la caravane. Hein. pas de Tour de France sans caravane.
Et pas de caravane sans geste barrière. Le dispositif a été réduit cette année. Seuls 100 véhicules ont été accrédités au lieu de 160. Certaines marques ont rebroussé chemin. Les autres se sont pliées aux consignes, comme la mythique caravane Cochonou, dont Stéphane Domecq est le coordinateur.
On a bien entendu des masques de différentes sortes en fonction des zones de travail et des phases de la journée. Bien sûr, du gel, des lingettes pour désinfecter les véhicules tous les jours. Ça s'annonçait très très compliqué. Et à l'usage, on va pas dire que c'est la belle vie, mais nous on est là pour continuer à faire plaisir.
Faire plaisir et surtout s'offrir la plus belle campagne de pub de l'année. Selon l'organisateur du Tour, un spectateur sur deux vient avant tout pour voir passer la caravane qui génère, selon les marques, jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel.
Marguerite Lefebvre, voilà, le peloton arrivera dimanche sur les Champs-Élysées. Pas vraiment de suspense hein, quant au nom du vainqueur. Le Slovène Primoz Roglic devrait remporter cette édition. Vous entendrez la fierté des Slovènes dans le journal de 8h.
Oui, et à 8h30, le journal du Tour également, on va retrouver Marguerite Lefebvre. Sophie Echen, merci beaucoup, c'était le journal de 7h30. À 8h, une nouvelle édition avec François Geffrier tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9.
Il est 7h40 sur Europe 1. Êtes-vous retourné au musée ? Peut-être que vous devriez. Il paraît que sans les touristes étrangers, les conditions sont idéales pour une visite. Mon invité Jean-Luc Martinez, le président du musée du Louvre.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Luc Martinez.
Bonjour.
Je voulais justement commencer par là et ce sera plus positif finalement pour nos auditeurs. Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, dans les allées du Louvre, c'est plus confortable que jamais ? C'est l'occasion peut-être de voir les œuvres comme on ne les a jamais vues ?
C'est vrai. Vous savez, le musée, c'est un très très grand musée. Hein. C'est un palais, donc avec cours, avec des arbres. La grande galerie porte bien son nom, le salon carré. Voilà. Mais c'est vrai que même dans la salle de la Joconde, vous arrivez dans la journée à être presque seul devant le tableau le plus célèbre du monde. Donc voilà, c'est le moment de venir la voir. C'est précieux, oui. Enfin, nous, c'est vrai que nous, on ne sommes
pour vous, c'est compliqué. On va y venir justement. Je pense à nos auditeurs qui pourraient aller au Louvre. Un peu plus d'un demi-million de visiteurs cet été. Le musée du Louvre a vu sa fréquentation dégringoler. On s'y attendait. 75% en juillet, 60% en août par rapport à l'année dernière. C'est l'absence de touristes étrangers hein, qui vous coûte.
C'est très particulier au Louvre et aussi à Versailles, mais aussi aux très grands musées dans le monde comme le Metropolitan. C'est-à-dire que une partie de nos visiteurs, la plus grande partie de nos visiteurs l'été notamment, est extra-européenne. Ce sont les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Corée. Voilà. Donc nous le savions, donc nos estimations se sont révélées exactes. Ces visiteurs n'étaient pas là. Au-delà donc des visiteurs français qui eux étaient là et des visiteurs européens qui également était là.
C'est ce que nous disaient précisément les responsables de la Tour Eiffel où nous étions mercredi matin. Près de 80% de Français. Beaucoup de visiteurs gratuits aussi au Louvre, il faut le souligner.
Oui, parce qu'on l'oublie, les musées nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc pour une sortie familiale, c'est une sortie finalement à coût réduit. Et on pense souvent que les musées anciens sont peu populaires, fréquentés que par des personnes plus âgées et cultivées. C'est faux. Enfin, il y a des gens bien plus âgés et cultivés. Mais par exemple, au Louvre, cet été, on a accueilli plus de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Voilà, le musée du Louvre, c'est aussi un musée où se rencontrent les générations.
On en a beaucoup parlé pendant le confinement. Vous avez pallié ce confinement avec des visites en ligne. Ça a très bien marché au printemps, on en avait parlé. Mais Jean-Luc Martinez, entre nous, on est d'accord que ce n'est pas pareil.
C'est pas la même chose, en effet, parce que rien ne remplace la visite en vrai, c'est-à-dire la rencontre avec la matérialité d'une œuvre, mais aussi avec les gens. Parce que je voudrais dire quand même qu'un musée vide, c'est pas la destination d'un musée, quoi. Donc c'est pas la mission d'un musée. Vous allez aussi au musée pour parler avec vos amis, pour être avec vos grands-parents, avec vos enfants. Vous allez au musée aussi pour la visite au musée du Louvre, c'est aussi rencontrer le monde entier. Hein, quand il y a des touristes du monde entier, voilà, ça fait partie de ce plaisir-là. Alors la visite, l'expérience numérique, c'est une autre expérience. Hein. Plus intime, plus en tête-à-tête.
Et sur site, vous avez donc développé des offres adaptées, encore aujourd'hui hein, d'ailleurs. Dans cette crise, on est obligé de repenser les musées, les circuits dans les musées ?
Comme souvent, les crises, avec une crise, on n'invente rien, hein, mais ça révèle ce qui était en germe. Et ce qui était en germe, la révolution en cours au musée du Louvre comme dans les musées du monde, hein, c'est un meilleur accueil, un accueil de proximité. Voilà. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne vont pas au musée, ils disent souvent « mais parce qu'on ne se sent pas accueilli ». Et voilà, donc nous avons imaginé cet été, et par exemple là pour les journées du patrimoine, ce samedi, ce dimanche, c'est possible, il y a des visites spontanées, gratuites, dans 8 endroits, 8 points dans le musée. Donc ça permet en effet aux gens comme ça de se construire leur propre itinéraire. Et c'est bref, hein, une vingtaine de minutes où un conférencier vous présente un ensemble d'œuvres, voilà, et répond aux questions. Je pense que ça, c'était un peu en germe un peu partout dans les musées. Et finalement, dans les circonstances que nous traversons, on a pu vraiment le développer. Aussi parce qu'on a 80% de français, que c'est plus facile à faire quand on le fait qu'en français ou en anglais.
Bien sûr. Ah, j'ai une question technique. Jean-Luc Martinez, les œuvres du Louvre, est-ce qu'elles sont compatibles avec les règles sanitaires? En ce moment, dans toutes les entreprises, on utilise des tonnes de produits de nettoyage, il y a la question des climatisations. Chez vous, au Louvre, c'est un sujet?
Alors, ça a été ou ça peut être un sujet quand les œuvres se déplacent, hein, c'est-à-dire que quand on prête pour des expositions, etc. Mais on prend des précautions avec les caisses, contre-caisses, etc. En revanche, vous l'avez bien compris, on ne peut pas nettoyer les œuvres avec des produits que nous utilisons tous les jours.
Je voulais vous poser la question des méga-expositions. On en a beaucoup parlé avant le Covid, Toutankhamon à la Villette, Vinci chez vous au Louvre. Des conditions parfois discutables, en tout cas elles sont discutées, beaucoup de monde, mais en même temps on sait que c'est très cher, que c'est compliqué pour les musées à organiser. Ce genre d'exposition massive, blockbuster, avec le Covid, c'est fini ?
Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que, de toute façon, vous voyez, avec Vinci, on avait imposé la réservation pour chercher quand même à lisser la fréquentation dans le temps. On avait ouvert aussi la nuit, les trois derniers jours. Vous voyez, je pense qu'on est obligé, en effet, d'inventer des manières pour accueillir un public dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est difficile et ce qui restera difficile et encore plus difficile après la crise, c'est bien entendu le fait de réunir des œuvres exceptionnelles. C'est ça la difficulté.
Vous travaillez à de prochaines grandes expositions de ce genre-là ?
On a réussi, en effet, grâce à la solidarité européenne, à monter une grande exposition qui va ouvrir là, début octobre, enfin mi-octobre, autour du 21 octobre, de Donatello à Michel-Ange, autour de la personnalité de Michel-Ange, avec nos collègues italiens, notamment de Milan. Donc je sais bien que la sculpture généralement est moins populaire que la peinture, mais c'est de la très très grande sculpture, un moment extraordinaire donc de la Renaissance européenne et italienne.
C'est une crise singulière que nous traversons, c'est un euphémisme, on utilise beaucoup l'emphase aussi, spectaculaire, inédite, historique, rien que le mot crise en lui-même. Bon. Est-ce qu'il y a à vos yeux, à froid ce matin, Jean-Luc Martinez, une œuvre qui incarne, qui vous est inspirée par cette situation à laquelle vous penseriez ?
Honnêtement, je pense que Léonard de Vinci, pour revenir toujours au même, a vécu dans une période de crise aussi profonde. Il a été brimbalgué comme ça, donc entre plusieurs pays, plusieurs régions, etc. Et la Sainte-Anne, qui est une œuvre incroyable, hein, Sainte-Anne, donc la mère de Marie, tenant Marie sur ses genoux, elle-même tenant son fils Jésus. Donc ces trois générations, je pense que c'est un beau symbole à la fois de la transmission, de ce qu'est un musée. Un musée, c'est un lieu aussi où les générations se rencontrent, et aussi de la proximité, parce que Léonard a voulu représenter la vie même. Et c'est l'occasion de dire aussi que, vous voyez, on peut être présent aussi par le cinéma en ce moment, le film. Donc Léonard de Vinci est sur les écrans grâce à Pathé. Voilà, c'est aussi un moyen d'être proche des gens. Et je pense que ce tableau qui nous vient, vous voyez, qui a survécu, qui a 5 siècles, qui nous vient d'un très très lointain passé, il est aussi très proche de nous.
Jean-Luc Martinez, vous êtes le président du Musée du Louvre et donc ainsi le conservateur d'une immense partie du patrimoine de l'humanité. Est-ce que ça prend un sens particulier en ce moment ?
Ah oui, particulièrement avec les destructions qu'on a connues dans les années 2010, mais aussi, vous voyez, en ce moment, avec ce qui se passe au Liban et la destruction de ce patrimoine. Alors, c'est vrai qu'on a une responsabilité particulière. Vous savez que grâce à l'association qui s'appelle Alif, le Louvre est aux côtés du Musée national de Beyrouth, par exemple, en ce moment. Hein, donc, mes équipes sont sur place à faire des choses simples, hein, réparer les fenêtres, les portes. Voilà, pour dire, voilà, ce patrimoine, bien sûr qu'il appartient aux Libanais, mais il est aussi pour toute l'humanité. Et c'est un peu le sens d'un musée universel comme le Louvre. Donc voilà, ce patrimoine, il est pour tout le monde.
Jean-Luc Martinez, je le disais, le Louvre ne participe pas à proprement parler aux journées du patrimoine, si ce n'est via le Jardin des Tuileries, pour lequel d'ailleurs vous lancez une grande opération de mécénat. L'idée, c'est de redonner aux Tuileries leur splendeur d'avant la Révolution avec le dessin d'André Le Nôtre. Je voulais le mentionner, cette opération de mécénat pour replanter des arbres. Et puis d'André Le Nôtre à Primoz Roglic, si on ne vient pas au Louvre, on le verra dimanche. Le Tour de France passe chez vous pour la dernière étape dimanche. Merci beaucoup Jean-Luc Martinez.
Merci à vous.
Merci d'être venu répondre à nos questions dans le studio d'Europe pour le tête-à-tête Europe Matin. Il est 7h48.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Olivier Véran a donc repris la parole hier lors d'une conférence de presse pour adapter la stratégie de lutte contre le Covid.
Oui, il était temps de corriger la trajectoire. Depuis Pâques dernier, depuis la mise en place de la fameuse trilogie tester, tracer, traiter, la France s'était lancée dans un gigantesque rattrapage de son retard en matière de tests. Des objectifs chiffrés ont été assignés, puis progressivement relevés jusqu'à 1 200 000 tests par semaine. Il fallait tester, toujours tester, comme le rabâchait le gouvernement qui, il est vrai, appliquait là les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bon, bravo, on a rejoint le podium des meilleurs pays en nombre de tests hebdomadaires, bravo. Mais ça ne sert à rien, ou presque. On teste, mais il faut attendre des jours et parfois des semaines avant d'être prélevé et avant d'avoir le résultat, positif ou négatif. On a fait du chiffre, mais on a oublié de s'occuper de ce qui se passait après le prélèvement.
C'est précisément ce que le ministre de la Santé a corrigé hier en promettant des queues moins longues et des tests à résultats quasi instantanés.
Oui, il a été mis sous forte pression par Emmanuel Macron parce que, après l'échec des masques cet hiver, c'est un nouveau bug du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie. Vous vous souvenez des épisodes peu glorieux sur l'utilité des masques. Ils ne servaient à rien et on ne savait pas les utiliser lorsque la France n'en avait pas. Et puis un jour, ils sont devenus indispensables et même obligatoires. Eh bien, pour les tests, même scénario. Au début de l'épidémie, on ne devait pas aller se faire tester et puis c'est devenu gratuit et accessible à tous avec des embouteillages avant et de l'attente après. Deuxième vague, deuxième échec.
Et où est-ce que ça a bugué? D'où vient le dysfonctionnement?
Et ben c'est un magnifique cocktail des travers français. Trop de normes, pas assez de souplesse dans le choix et l'origine des tests, une rigidité imposée au secteur des laboratoires d'analyse, une administration trop lente aussi, et puis la gratuité totale des tests, qui est la force et la faiblesse du modèle social français. J'ajoute, et je pense que c'est assez alarmant, j'ajoute qu'il a fallu qu'Emmanuel Macron lui-même s'en mêle.
Ah oui, ça c'est la centralisation à la française.
Ben oui, mais ça pose beaucoup de questions. D'abord, rappelons-nous, Jean Castex a été nommé à Matignon avec la promesse d'être un as de l'exécution, un champion de la politique du concret. Bon, ben c'est pas gagné. Et puis, plus fondamentalement, est-ce que le président était le seul à voir les files d'attente devant les labos? Est-ce que personne dans la majorité n'avait compris que cette image nourrissait, dans l'opinion publique, une impression d'échec? Voyez-vous, ça ressemble furieusement au problème de la délinquance. On nous sert des chiffres rassurants, mais le sentiment d'insécurité progresse. Eh bien, on nous rassure avec des millions de tests, mais le ressenti dans l'opinion ne suit pas. Aucun doute possible, la majorité a encore du travail à faire pour se rapprocher du terrain.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1 à 7h50. Et nous retrouvons Nicolas Canteloup qui, tous les jours, coach, conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et tiens, Emmanuel Macron voulait lui donner un petit conseil. Bonjour, oui. Monsieur le Président.
Oui, bonjour, Monsieur Béliard. Bonjour, Monsieur Bétou. Bonjour. Écoutez, je vais m'adresser à Gabriel Attal. Donc, tu essayes de ne pas nous faire une cibette, Ndiaye, devant Sonia Mabrouk. Hein, tu ne dis pas qu'il faut envoyer les profs cueillir des fraises ou qu'il faut apprendre à mettre un masque sans se tromper ou si une personne âgée est décédée dans un EHPAD, tu ne fais pas comme si bête par rapport à Simone Veil, tu ne dis pas la vieille à Canet ou la meuf est dead, tu vois. Je te demande pas la lune, évite juste d'éviter d'avoir un imbécile au point où j'en suis, ça, je m'en contente.
Eh bien, merci, le message est passé, monsieur
et
le président.
Puis, pardon, excusez-moi d'insister, on se souvient de qui était mon premier porte-parole, monsieur Bétou le sait. C'est Benjamin Griveaux, donc ne nous fais pas une Griveaux non plus. Hein, Madame Mabrouk est très jolie, certes, c'est entendu, mais tu joues pas à coucou, le petit oiseau va sortir. Chère Sonia, regardez votre Instagram. Ok, voilà, excusez-moi d'être précis.
Non, mais faites.
Je vous trouvais peut-être que je les infantilise. Et puis n'oublie pas non plus, prends une pièce d'identité. hein, à l'entrée. Souviens-toi, ta dernière interview, ils t'ont pris pour le stagiaire de 3e, t'as fait des photocopies et des cafés pendant 3 semaines.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 7h55. Sonia Mabrouk reçoit donc Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Merci Nicolas, on vous retrouve à 8h45 tout à l'heure pour la revue de presse. 7h58 sur Europe 1, nous retrouvons Laurent Cabrol. Et Laurent, vous me dites qu'après ce beau temps, cette chaleur, le mauvais temps est en train d'arriver via l'Espagne.
Ah oui, c'est pas folichon. Hein. En ce moment, les pluies, pas encore les orages, mais les pluies traversent les Pyrénées ou franchissent les Pyrénées et vont maintenant arriver en France. Alors, nous allons recevoir au Pays Basque déjà les premières intempéries. Et ensuite, ces intempéries qui sont présentes également sur le golfe de Gascogne. Chers amis, si vous imaginez la France, toute la côte atlantique, vous voyez, tout ce que j'ai, demi-cercle là. Et hop, ça va monter le long des côtes atlantiques. Et là, nous aurons, dans le courant de l'après-midi, les premiers orages et le mauvais temps qui ne va pas rester là. Hein. Dans la nuit, il va pénétrer dans les terres et de sorte qu'il va traverser le pays tout au long de cette nuit et la nuit prochaine, bien sûr, et la journée de demain. Et vous allez voir demain ce qu'on appelle le phénomène Cévenol, c'est-à-dire que les vents sont en train de tourner au sud en Méditerranée. Dans la Méditerranée, pouf, les vents tournent au sud, d'accord, et ils vont apporter avec eux des orages qui vont buter contre les Cévennes, et c'est l'épisode Cévenol, c'est-à-dire de fortes pluies entre Montpellier et les Cévennes. Bon, voilà, j'espère que le cours de géographie, je suis pas très bon prof.
C'était très clair.
Compris. Mais en attendant, partout ailleurs en France, vous avez un ciel dégagé, donc profitez-en, ça ne va pas durer. Là, le congé de fin de semaine, le week-end merguez, c'est fini, là. Je crois qu'il va falloir faire une croix, hein, vous allez voir qu'il va bien pleuvoir, ils nous auront des orages un peu à peu près partout. Hein. Et ce temps va durer dimanche, lundi. Ensuite, nous allons basculer, comme je disais tout à l'heure, vers une météo qui s'annonce beaucoup plus automnale. Peut-être le changement de régime va-t-il s'opérer la semaine prochaine. C'est un événement.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'info sur Europe 1, on écoute le monde changer. Il est 8h.
Là, la gestion des résultats positifs, elle va être beaucoup plus efficace que si on doit attendre les résultats plus longtemps que 15 minutes.
Ils seront nettement plus rapides et c'est sans doute la solution contre les délais parfois extrêmes pour avoir les résultats. La nouvelle génération de tests du Covid doit arriver le mois prochain en France. Olivier Véran appelle les personnes âgées à se protéger encore davantage. Les patrons de maisons de retraite lui répondent sur Europe 1 demandant d'urgence des personnels supplémentaires. Une hécatombe économique dans un secteur de proximité. 2000 fleuristes ont fermé boutique depuis 6 mois. C'est une information Europe 1. Dans ce journal, les soufflantes passées par le Premier ministre. Jean Castex sait qu'il n'est pas là pour se faire des amis. Nous irons en Slovénie, où les audiences télé du Tour de France ont doublé alors que ses coureurs mènent la grande boucle en ce moment. Et puis, que sont devenus les millions d'euros du loto du patrimoine? Réponse dans 10 minutes, dans un théâtre centenaire et sur un aqueduc romain.
Le gouvernement hausse le ton, l'épidémie gagne du terrain, de nouvelles restrictions sanitaires sont en vue. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Soyez les bienvenus dans Europe Matin, il est 8h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Olivier Véran a voulu faire de la pédagogie hier, conférence de presse, pour marteler, réexpliquer les protocoles, les consignes à l'école, dans les crèches, mais aussi dans les centres de dépistage. En une semaine, 1 200 000 tests ont été réalisés en France. C'est un record, certes, mais à quoi bon quand les résultats arrivent parfois 12 jours plus tard?
Pour y remédier, le ministre de la Santé évoque la commande de nouveaux types de tests nettement plus rapides. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Mathieu.
On parle là de tests antigéniques. De quoi s'agit-il?
Ce sont en quelque sorte les jumeaux des tests de dépistage PCR que l'on connaît bien. Pour les prélèvements, c'est exactement pareil, le coton-tige dans le nez. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire analyser ensuite les échantillons. Ils contiennent déjà un réactif qui change de couleur au contact du virus. Le processus dure un gros quart d'heure. Un gain de temps essentiel pour casser les chaînes de contamination, explique Samira Fafi-Kremer de l'Institut de virologie de Strasbourg.
L'intérêt, c'est d'avoir le patient tout de suite à côté. On pourrait le garder et puis tout de suite avoir cette possibilité de lui dire qu'il est positif et donc quelles sont les précautions qu'il doit prendre, quels sont les contacts qu'ils avaient. Donc effectivement, là, la gestion des résultats positifs, elle va être beaucoup plus efficace que si on doit attendre les résultats plus longtemps que 15 minutes.
Si les expérimentations n'ont commencé que cette semaine, c'est parce que les essais cliniques des premières versions de ces tests n'étaient pas assez fiables. D'ailleurs, aux hôpitaux de Paris, en charge justement de l'expérimentation, chaque patient positif est testé une seconde fois avec le PCR classique. D'où un appel à la prudence hier du ministre de la Santé Olivier Véran. Mais malgré ce principe de précaution, malgré l'absence encore d'avis de la Haute Autorité de Santé, la France a d'ores et déjà commandé 5 millions de ces tests antigéniques. Donc, retenez le terme, ils sont attendus pour le mois prochain.
Les explications de Pierre Herbulot en direct pour Europe 1.
Et puis parmi les déclarations du ministre de la Santé hier, une phrase très forte à l'égard des personnes âgées.
Vous êtes les personnes les plus fragiles face au Covid et notamment face aux formes graves de la maladie. C'est pourquoi je vous demande de vous protéger encore davantage, de redoubler tous vos efforts, y compris celui le plus difficile, qui consiste à réduire encore le nombre de personnes que vous voyez chaque jour.
Alors on sait que pour les résidents des EHPAD, le confinement avait été très douloureux pour le moral. Olivier Véran leur demande donc ce nouveau sacrifice. Pas si simple, réponse ce matin Romain Gisolme de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il lance sur Europe 1 un appel pour recruter des salariés.
Aujourd'hui, nous sommes face à des professionnels qui sont épuisés, éreintés et pour certains désabusés. Ils étaient là lors de la première vague, mais ils nous disent qu'ils ne seront pas là dans ces conditions pour la deuxième s'il y en avait une deuxième. Il y a urgence à ce que l'État aujourd'hui investisse dans ce secteur, crée de l'emploi. Et de ce point de vue-là, nous sommes en attente que l'État fasse un geste fort pour soutenir ce secteur. Et ça, c'est un des éléments sur lequel il faut agir très rapidement.
Romain Gisolme, qui était ce matin en direct à 6h40, l'invité de Sébastien Krebs.
C'est l'essence même du commerce de proximité. Les fleuristes, ils ont toujours le bon conseil, ils suivent les saisons. Ils nous accompagnent lorsqu'on a quelque chose à célébrer ou même lors d'un deuil. Cette profession est terrassée par la crise.
Olivier Sommin, vous nous révélez ce matin les premiers résultats d'une étude de l'interprofession du végétal avec un chiffre particulièrement effrayant.
Oui, 2000 fleuristes qui ont baissé définitivement leur rideau. Autrement dit, un fleuriste sur 7 en France. Il y a d'abord eu le coup de massue de la fermeture obligatoire de leur magasin dès le début du confinement, avec un stock de fleurs qu'ils avaient acheté et qu'ils ont dû jeter, ce qui a plombé leur trésorerie déjà structurellement fragile. En juin, c'est vrai, les Français se sont remis à s'offrir des fleurs, mais ça n'a pas suffi, dit Michaël Mercier, le président de l'interprofession du végétal, car dans le même temps, une grosse partie de leur activité est restée à l'arrêt.
Il n'y a pas eu de sépulture comme c'est fait habituellement. Il n'y a pas eu non plus de mariage, et c'est une grosse activité pour les fleuristes. Et plus globalement, il n'y a pas eu non plus en France de séminaires d'entreprise, de congrès. Et pour les fleuristes qui sont également dans les grandes villes, il n'y a pas eu de touristes étrangers qui sont venus dans les hôtels. Et donc pas de fleurissement de fait dans les hôtels parce qu'ils étaient fermés.
L'ennui, c'est que les congrès, les séminaires, la fréquentation des hôtels, c'est encore en céphalogramme plat. D'où la crainte des fleuristes. À la fin de l'année, ce ne sera pas 2000 fermetures, mais probablement plus.
Olivier Sommin, vous signez cette information Europe 1 ce matin. La SNCF mettra environ 2 ans à retrouver le trafic d'avant la crise, indique son PDG Jean-Pierre Farandou au journal Les Échos ce matin. Il évoque le manque des grands salons professionnels. La SNCF va par ailleurs simplifier sa tarification, promet-il.
La politique. Depuis l'été, plusieurs tensions au sein du gouvernement sont venues ternir la rentrée de Jean Castex.
Le débat entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sur le terme d'ensauvagement, ou encore cette semaine, l'écologie contre les transports sur l'écotaxe. Alors, le Premier ministre manque-t-il d'autorité ? La réalité ne serait pas aussi simple. Le décryptage de Jean-Rémy Bodo.
Au sein du gouvernement, parmi les ministres, dans les cabinets, 2 camps s'affrontent. Il y a ceux qui sont déçus par la rentrée de Jean Castex, regrettent ses déplacements à répétition, fustigent un manque de légitimité. J'ai l'impression de voir Jean-Marc Ayrault, persifle un conseiller. À l'opposé, d'autres plébiscitent la méthode. Tout est très direct. Il n'est pas là pour nous materner, lâche un collaborateur. À Matignon, on tente de prendre de la distance, même quand des ministres s'affrontent. Que des sensibilités s'expriment, c'est heureux, affirme un conseiller avant d'insister. À la fin, est-ce que les décisions sont respectées ? La réponse est oui. Fin de citation. Avant sa nomination, Jean Castex avait la réputation d'un haut fonctionnaire parfois dur. Ils sont nombreux à se prendre des soufflantes, confirme le conseiller d'un ministre. Ça file droit, reconnaît l'entourage de Jean Castex. En privé, le Premier ministre répète d'ailleurs régulièrement « Je n'ai pas accepté cette mission pour me faire des amis ».
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1. C'était au cœur de l'été, le 9 août dernier, une attaque contre des humanitaires français au Niger. 6 d'entre eux, de l'ONG Acted, avaient été tués avec leur guide et leur chauffeur.
Jean-Sébastien Soldaini, nous sommes plus d'un mois plus tard et l'État islamique a revendiqué cette attaque.
Le canal de revendication est bien connu, Al-Naba, un hebdomadaire de propagande qui arrive chaque semaine sur les sites fréquentés par les djihadistes et qui liste toutes les actions de Daesh. Le texte s'accompagne de deux images, probablement tirées d'une vidéo où les victimes apparaissent à genoux, visage ensanglanté, peu avant d'être exécutées. Le document est identifié par des experts des groupes terroristes, mais cette revendication pose question. Très peu de détails sur l'attentat en lui-même et puis... il y a le timing. Plus d'un mois après les faits, laissant imaginer que les auteurs ont pu attendre avant de prêter allégeance à Daesh. Le texte ne dit pas non plus si cette action a été préméditée ou bien si elle s'est faite au hasard d'une rencontre avec les hommes armés. Quant à la description des victimes, il est fait mention de 6 croisés français, en aucun cas d'humanitaire, comme si le message envoyé était une mise en garde plus large pour éloigner aussi les simples visiteurs de cette réserve naturelle.
Aux États-Unis, un meeting de Joe Biden en mode drive-in. Hier soir à Scranton, en Pennsylvanie, le candidat démocrate à la Maison-Blanche a pris la parole devant une centaine de spectateurs restés dans leur voiture. « Ce président devrait démissionner », déclare Joe Biden à l'adresse de Donald Trump, dont il critique la gestion presque criminelle, dit-il, de la pandémie.
Il est 8h08 sur Europe 1. Les nouvelles stars du Tour de France. Il fallait être très connaisseur du vélo pour avoir en tête, il y a encore 3 semaines, les noms de Primoz Roglic ou de Tadej Pogacar, les deux Slovènes solidement en tête de la course.
Eh bien, ce matin, nous voulions vous emmener chez eux, dans ce pays d'à peine 2 millions d'habitants, où ces derniers jours, la passion pour le Tour de France grimpe aussi fort qu'un col hors catégorie. Bonjour Théo Manval.
Bonjour François.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ljubljana. Théo, les Slovènes se sont emparés du Tour et le Tour a conquis la Slovénie.
Ah oui, chaude ambiance dans certains cafés lors de la bataille des fins d'étape. Supporters massés par dizaines devant leur télévision. Ce que vous entendez derrière moi, ce sont les derniers kilomètres de l'étape alpestre d'hier au Vélobar de Ljubljana, où maillot jaune comme Roglic sur les épaules, la patronne Petra vit un rêve éveillé.
C'est extraordinaire, on s'attendait tous à ce que Roglic fasse quelque chose. Mais les deux, avec Pogacar qui attaque tout le temps, c'est vraiment fou. On est très fiers, on les regarde tous les jours, on crie, on les encourage.
Et les audiences télé ici ont explosé, François, plus 109% par rapport à l'an passé. Un Slovène sur 3 regarde la course en fin d'après-midi. Certains ont même adapté leurs horaires de travail, voire plus, comme Nate.
J'ai posé une semaine de vacances juste pour regarder le Tour. Ce qu'ils font, c'est grand pour la Slovénie. Tout le pays est derrière eux.
Il faut dire que 2 champions en haut de l'affiche pour un pays qui compte seulement 1600 coureurs licenciés en club, c'est assez inédit, le sujet de toutes les conversations. Ils font l'histoire, dit ce quadragénaire. Même ma mère à 62 ans, c'est désormais tout sur le vélo, embraye un autre. La fièvre promet d'être à son maximum jusqu'à dimanche. Certains bars ont même prévu des feux d'artifice, si le doublé se confirme.
C'est ce qu'on leur souhaite éventuellement. Les Français sont un petit peu trop loin pour le moment. Merci Théo Manval, en ligne de Ljubljana en Slovénie pour Europe 1.
C'est un événement qui tient au cœur des Français depuis 37 ans maintenant. Les Journées du patrimoine, format réduit cette année avec l'annulation à Bordeaux, Marseille, Nice ou encore à Lille.
Ailleurs, la jauge sera limitée. Alors pour vous consoler, si vous êtes joueur, il y a le loto du patrimoine et son jackpot de 13 millions d'euros demain, dont une partie des profits sert à sauver des monuments en péril. La première édition, c'était en 2018, 18 monuments en avaient bénéficié. Alors, 2 ans plus tard, où en sont ces chantiers? Romain Hoquet a la réponse avec ce reportage.
En extérieur, déjà, on voit vraiment que le projet avance, que le théâtre va revivre. Donc, c'est ça qui suscite une émotion et c'est très concret, quoi.
Un théâtre centenaire dans la Meuse, une ruine qu'Anthony Marty, un passionné, a racheté. En 2018, le loto du patrimoine lui donne 360 000 euros. 6 mois plus tard, le chantier de restauration démarre.
Tout le gros œuvre est en phase d'être terminé. Toutes les toitures sont reprises, toutes les menuiseries, toutes les fenêtres ont été changé, près d'une quarantaine de fenêtres, ça a pu se faire très 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 vite.
Dans le Rhône, l'enveloppe que Damien Combet a récupérée après le loto, c'est à peine 5% du prix du chantier. Le sauvetage de l'aqueduc romain de sa commune, il le doit surtout au coup de projecteur qui suit l'opération. Pour tous ces monuments, la fréquentation explose et attire de nouveaux investisseurs.
C'est un accélérateur, ça a permis de mettre autour de la table les partenaires historiques financiers que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, et du coup apporter des contributions financières plus importantes dans des délais plus courts.
Lui peut espérer terminer les travaux dans 3 ans au lieu de 15 initialement. Des monuments qui, même en chantier, seront pour certains ouverts ce week-end.
C'est l'un des seuls festivals rescapés de cette crise. Cette semaine, à Bourges, se tient Les Inouïs, le festival pour artistes émergents du printemps de Bourges.
Oui, c'est comme un concours. Hein. 34 artistes ont pu jouer cette semaine devant les professionnels du secteur. Christina de Queens, Eddie de Préto viennent de ce tremplin musical. Alors, qui sont peut-être les artistes de demain? Réponse avec Angèle Châtelier.
La favorite des Inouïs du printemps de Bourges crue 2020 a un nom de scène robotique, PR2B, pour Pauline Rambaud de Barallon, son vrai nom. Biberonnée à Serge Gainsbourg, PR2B fait partie de cette nouvelle génération de chanteuses à succès, dans la lignée de Juliette Armanet. J'avais ma couleur de spin et vert. Diplômée de la FEMIS, prestigieuse école de cinéma, PR2B a grandi à Bourges. Et la musique, c'est une histoire de famille. Dans la maison, son père avait un studio.
Il s'enfermait des heures à fumer des gauloises brunes sans fil. Et du coup, je passais des heures à jouer avec lui. Bon, la plupart du temps, je malmenais ses accordéons. Et donc, je l'ai beaucoup vu répéter. Mais on a aussi pas mal joué ensemble.
Mais PR2B est en course avec 33 autres artistes, comme les rockers Bandi Bandi ou encore la rappeuse Alicia, présente sur le dernier album de Grand Corps Malade. On lui a dit juste tais-toi et bouffe. Autre gagnant potentiel, Terrier, 26 ans, moitié slammer, un peu rappeur, à la production épurée, aux paroles désenchantées. Il jouait mercredi devant 500 personnes et depuis, dans les ruelles de Bourges, beaucoup murmurent que c'est l'une des révélations de cette 9e édition.
Un reportage à Bourges d'Angèle Châtelier. Le football, 2-0 pour Saint-Etienne au Vélodrome. Première victoire des Verts à Marseille depuis 41 ans. Hier soir, ils prennent la tête de la Ligue 1. Et puis le Servette de Genève battu à domicile 1-0 par Reims en Ligue Europa.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h13, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La situation sanitaire nécessite clarté et lisibilité. La situation sociale nécessite vérité et courage. Le porte-parole du gouvernement a la lourde tâche de rendre intelligibles les propos parfois cacophoniques du gouvernement. Y parviendra-t-il ce matin? Gabriel Attal est notre invité.
À tout de suite, il est 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Bienvenue à vous et bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Est-ce que vous reconnaissez que votre politique des tests est défaillante à l'heure actuelle?
Oui, et c'est pour ça qu'Olivier Véran a fait des annonces hier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a suivi les recommandations de l'OMS qui appellent à tester, tester, tester. Donc on a très fortement développé les capacités de test en France. Et la France est aujourd'hui un des pays au monde qui teste le plus quand on rapporte au nombre d'habitants. On teste plus qu'en Allemagne, on teste plus qu'en Espagne, on teste plus qu'en Italie. Je crois que c'est 1,2 million de tests par semaine qui sont maintenant réalisés. Et comme on teste beaucoup et qu'il y a beaucoup de Français qui du coup viennent se faire tester, il y a de l'embouteillage dans un certain nombre de villes. Ce n'est pas le cas partout, mais notamment dans les métropoles. Vous avez des gens qui doivent attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous pour se faire tester et ensuite plusieurs jours pour avoir le résultat. Et donc, non seulement pour les gens, c'est très désagréable, mais en plus, en termes d'efficacité, l'intérêt de tester massivement, c'est de pouvoir dire très vite aux gens s'ils sont contaminés ou pas. Et donc, pourquoi Olivier Véran s'est exprimé hier pour annoncer qu'on allait être plus efficace? D'abord, en fixant des vrais critères de priorisation et des vraies plages horaires dans les laboratoires de priorisation.
Oui, mais sans obligation, par exemple, d'avoir une ordonnance pour se faire tester. Donc les files d'attente, Gabriel Attal, vont continuer à s'allonger, le système à s'emboliser.
On continue à tester largement. Et par exemple, effectivement, on n'a pas retenu le fait de dire il faut une prescription médicale pour tout le monde pour se faire tester. Parce qu'on sait qu'avoir un rendez-vous chez le médecin, on ne l'a pas forcément tout de suite. Et encore une fois, notre intérêt, c'est que les gens se fassent tester vite. En revanche, ce qu'a annoncé hier Olivier Véran, c'est une deuxième file, une double file, pour les gens qui ont une ordonnance.
Ça, c'est un gage d'efficacité, une double file, vraiment?
Oui, c'est un gage d'efficacité, parce que des gens qui ont une prescription médicale, des gens qui sont contacts de personnes positives, des gens qui sont des personnels soignants et qui donc sont au contact de beaucoup de Français et de malades, ils doivent pouvoir être testés avant les autres. Et donc, créneau réservé pour se faire tester. On va mettre en place des barnums de tests qui leur seront réservés aussi. Il y en a 20 en Ile-de-France qui vont être installés à partir de la semaine prochaine. Il y en aura d'autres en France. Et donc oui, on assume de dire qu'il y a des personnes qui sont prioritaires, qui doivent pouvoir se faire tester tout de suite. Et ça va aussi désengorger pour le reste.
Par ailleurs, vous assumez de dire que, c'était ma première question, qu'à l'heure actuelle, la politique de tests est défaillante.
Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas parfaitement efficace sur les tests. Il faut l'assumer, il faut
c'est
le dire.
C'est un euphémisme.
Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire que tout va très bien, Madame la Marquise, quand ce n'est pas le cas. Le fait est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des files d'attente, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire tester. Et donc, la première chose que je vous ai dit, c'est la priorisation. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nouvelle génération de tests qui va arriver au mois d'octobre. Les tests antigénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la même manière de tester qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'écouvillon nasal, qui n'est pas très agréable. Voilà. Mais par contre, le résultat est obtenu en moins de 30 minutes parce qu'il est testé sur place.
Il faut espérer qu'on en ait suffisamment. Mais le président de la République a eu raison de mettre la pression ainsi, notamment sur le ministre de la Santé.
Non, le président, il a demandé qu'on soit plus efficace. Voilà, c'est une demande collective.
Il a demandé, je suppose, individuellement au ministre de la Santé en charge de cette situation.
C'est une demande à tout le gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, tout le gouvernement est mobilisé sur cette question. À l'évidence, non. À l'évidence, non. Mais il faut le reconnaître. Vous savez, moi, encore une fois, je ne suis pas là pour me cacher les yeux et me dire que tout va bien. Voilà, c'est une épidémie, encore une fois, qui est historique. C'est une maladie qui est nouvelle, dont on découvre des choses chaque jour. J'ajoute quand même qu'un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, nos voisins et les autres pays, les rencontrent aussi. Quand on parle des embouteillages devant les tests, regardez la presse en Grande-Bretagne, je crois, dans d'autres pays, les unes, c'est les embouteillages pour se faire tester. Parfois, il faut faire des dizaines, des centaines de kilomètres pour se faire tester. Voilà, c'est un enjeu qui vient percuter tous les grands pays et donc il faut y répondre.
Y répondre avec clarté et lisibilité. Pouvez-vous nous expliquer, Gabriel Attal, vous dites la situation est inquiétante, mais en même temps, on va assouplir le protocole sanitaire à l'école.
Ce qu'a dit Olivier Véran hier, c'est qu'on a reçu un avis de la Haute Autorité de Santé, qui fait la synthèse des recherches médicales, qui dit quoi ? Qui dit que les enfants font peu de formes graves, c'est très rare, et surtout qu'ils transmettent peu le virus. C'est les scientifiques qui le disent. C'est-à-dire qu'il y a peu de contamination d'un enfant vers un autre ou d'un enfant vers un adulte. Il peut y avoir des contaminations.
Les scientifiques varient, hein, vous le savez. Oui, tout comme les politiques.
Mais justement, c'est parce que là, la Haute Autorité, elle rend un avis parce qu'on commence à avoir une doctrine scientifique suffisamment nourrie pour pouvoir rendre cet avis. Et nous, on se fie à ce qui est.
Vous ne prenez pas de risque parce que j'imagine des parents d'élèves qui nous écoutent ce matin qui se disent mais alors, ça va changer alors qu'on nous dit que la situation est inquiétante et que le virus est tout aussi dangereux que l'été.
Moi, j'entends parfaitement les doutes et les inquiétudes. Je les comprends. Quand on a des enfants, on veut être sûr qu'ils sont parfaitement en sécurité. On a mis en place un protocole sanitaire avec les données scientifiques dont on disposait, qui étaient très protecteurs. Et ce que Jean-Michel Blanquer va annoncer, c'est un nouveau protocole sanitaire qui sera tout aussi protecteur.
Quand va-t-il l'annoncer comme ça,
dans les prochains jours,
efficace,
dans les prochains jours,
en début de semaine,
d'ici à la semaine prochaine, au début de semaine prochaine.
Comme ça, les enseignants, évidemment, les personnels de l'éducation auront ce nouveau protocole
bien
sanitaire.
Bien sûr, et les parents d'élèves, pour que tout le monde puisse se fonder là-dessus.
Sur le plan social à présent, Gabriel Attal, une réunion doit se tenir ce lundi sur Bridgestone, Béthune, entre gouvernement, élus locaux, dont bien sûr Xavier Bertrand, et puis les syndicats. Est-ce que vous avez ce matin l'assurance que les responsables, surtout de l'équipementier de l'usine, seront aussi présents à cette réunion?
Bien sûr, si on provoque une réunion, c'est précisément pour échanger avec la direction de Bridgestone. Alors, j'ai eu encore ma collègue Agnès Pannier Runacher qui est en charge du dossier auprès de Bruno Le Maire hier. Elle m'a confirmé que la réunion aurait lieu lundi et que Bridgestone serait présent.
En tant que porte-parole du gouvernement, quel engagement pouvez-vous, avez-vous les moyens de prendre ce matin pour rassurer les salariés et leurs familles, ou du moins une partie de ces salariés?
L'engagement, c'est qu'on va tout faire pour trouver un avenir.
Vous trouvez que c'est un engagement, tout faire?
Oui, parce que moi, je vais vous dire... Moi, je crois que la volonté politique, elle peut changer les choses, elle peut changer le cours des choses. Sinon, je ferai autre chose et je ne serai pas là devant
Monsieur
vous ce
Attal,
matin.
Vous voulez qu'on vous cite la longue liste des promesses qui n'ont pas été tenues mais sur ces sites sociaux?
Est-ce que ça marche à chaque coup? Évidemment non, mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer? Non, quand on regarde ce qui s'est passé à Ascoval, on nous disait c'est fini, il n'y aura aucun avenir pour cette usine. On a trouvé un avenir. Quand on regardait à Hayange, on nous disait c'est impossible, il ne se passera rien. On a sauvé aussi l'activité. Quand on regarde Arc, c'est pareil, on arrive à développer d'autres activités. Donc là, très concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à voir avec la direction de Bridgestone si on peut faire évoluer l'activité industrielle, avoir d'autres types de pneus qui correspondent plus à la demande pour que l'activité continue.
Mais quels moyens de pression vous avez?
Et si ce n'est pas possible, on regardera pour développer d'autres types d'industries sur le site. C'est ça qui va être fait par
le gouvernement.
Il peut y avoir
un changement total d'industrie, de production sur le site.
C'est ce qu'ils vont regarder, et c'est la discussion qui vont avoir lieu. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mobilisation absolue pour ce site. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a aussi une forme de concorde politique autour de ce dossier. On est avec Xavier Bertrand sur ce dossier, on travaille main dans la main avec lui, avec les élus locaux.
Mais il met la pression, hein, Xavier Bertrand, justement, et peut-être qu'il il pourrait vous poser cette question de quels moyens précis dispose l'État pour faire reculer ou pour faire changer Bridgestone.
Mais d'abord, on a mis en place plein d'outils dans le cadre du plan de relance, précisément pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Et pourquoi est-ce qu'on a réagi très vivement quand il y a eu l'annonce par Bridgestone? C'est parce qu'ils n'ont même pas regardé, ils n'ont même pas proposé de s'emparer de ces outils, alors qu'il y a eu des réunions pour leur présenter, etc.
Monsieur Attal, est-ce que vous avez un moyen de pression?
Moi, je crois à la pression politique. Je crois que...
C'est de la naïveté, non?
Et ensuite, je vais vous dire...
Un équipementier international japonais, vous allez lui dire attention, le gouvernement français va se fâcher.
Mais non, on va aussi leur dire, regardez les dispositifs qu'on met en en place dans le cadre du plan de relance. Regardez comment est-ce qu'on accompagne les entreprises dans ce moment difficile avec l'activité partielle de longue durée pour quand les commandes se réduisent, que l'État vienne compenser cette perte d'activité avec de l'argent pour permettre de maintenir les salariés, de les former pour évoluer vers d'autres professions. Ça fait partie des outils qu'on développe. Les accords de performance collective aussi. Et donc on va regarder.
C'est très bien que vous en parliez, les accords de performance collective. Et on en parle peu. En mai dernier, un projet d'accord de performance collective présenté par la direction de Bridgestone a été rejeté par les salariés. L'accord qui proposait de travailler plus avait pour objectif de tenter d'améliorer la compétitivité de l'usine. Et à cette époque-là, une députée de votre majorité dit ceci. Rejeter cet accord de compétitivité, c'est de l'inconscience. Vous verrez les conséquences. Mais c'est-à-dire que vous saviez déjà à l'époque ce qui allait se passer.
Je vais vous dire, il y a une certitude, c'est que le dialogue social n'a pas été au rendez-vous dans cette entreprise.
Ah, et ça veut dire que les syndicats ont leur responsabilité.
Mais je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Il faut être deux pour dialoguer. Peut-être qu'à un moment, certains n'ont pas été suffisamment autour de la table. Peut-être qu'à un moment, c'était d'autres. Honnêtement, l'attitude de la direction depuis un an, c'est-à-dire quand il y a des propositions qui sont faites, ne pas répondre et là, annoncer une fermeture sans autre alternative, ça ne me semble pas non plus être une attitude très constructive. Moi, je ne veux pas regarder en arrière et dire où sont les torts et où ne sont pas les torts. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à trouver une solution et c'est pour ça que le gouvernement est mobilisé.
Alors vous veillez au secteur justement en difficulté, il y en a un qui est en grande difficulté, c'est le secteur aérien et parmi Gabriel Attal, les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il y a la piste d'une éco-contribution de 4 milliards et quelques pour compenser les émissions de CO2. Est-ce qu'elle sera mise en place?
Alors peut-être qu'il faut revenir sur la méthode. On a, à la sortie du grand débat national, décidé de mettre en place une Convention citoyenne pour le climat. Ça veut dire qu'il y a 150 Français tirés au sort avec des quotas pour représenter les différents âges, origines géographiques, origines sociales, qui ont réfléchi à des mesures, à des propositions pour l'avenir de la planète et pour protéger le climat. Ils ont rendu ces propositions au printemps dernier, je crois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail qui est fait par ces citoyens, avec les parlementaires, avec des chefs d'entreprise, avec les responsables des différents secteurs, pour avoir un regard exigeant sur ces différentes propositions.
Et tout ça pour nous dire quoi, regarder.
Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un travail qui est en cours.
Et que attendez, moi, je vais pas. Vous avez le porte-parole du gouvernement. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs paroles dans votre gouvernement? Ici même, sur Europe 1, il y a quelques jours, le ministre des Transports dit non. Il ne peut pas y avoir cette éco-contribution. Ça va être catastrophique sur le plan social parce qu'il peut y avoir jusqu'à 120 000, 150 000 suppressions d'emplois. Sur cette même antenne, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ça vous fait sourire, et dit l'inverse. Non, 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 attendez, on va voir. Et puis, ce sont les propositions de la Convention citoyenne. Vous penchez pour quel ministre?
D'abord, il peut y avoir plusieurs avis et plusieurs sensibilités, oui, je vous confirme, mais il peut y avoir plusieurs avis, plusieurs sensibilités, première chose. Ensuite, il y a un travail qui est en cours avec ces citoyens qui ont été tirés au sort et avec l'ensemble des responsables des différents secteurs. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, telle proposition, elle va être abandonnée ou telle proposition, elle va être retenue. On a le droit d'avoir une sensibilité. Cette proposition, c'est vrai qu'elle a été faite à un moment
mais
qui n'était
pas
abandonnée.
C'est une information ce matin.
Qui n'était pas le moment de crise qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit que le secteur aérien, aujourd'hui, il est dans de très grandes difficultés. J'étais hier en déplacement dans le Val d'Oise avec Bruno Le Maire. Je peux vous dire que les aéroports qui sont à l'arrêt et qui tournent à faible régime, ça a un impact très concret pour beaucoup d'emplois. Moi, je considère évidemment que quand vous avez un secteur qui est quasiment sous l'eau, vous ne lui plongez pas la tête dans l'eau encore plus profond.
Vous avez donné la réponse. Non, elle ne devrait pas être mise en place.
Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est fait par ces citoyens qui ont été tirés au sort, avec des parlementaires et avec les responsables des différents secteurs. Et c'est finalement de cette discussion que va sortir une décision.
Et plus largement, dans le cadre du plan de relance, vous serez en déplacement un petit peu partout pour parler de déclinaison justement de ce plan de relance sur les domaines territoriaux. Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31, un nouveau point sur l'info, Hélène Zélani.
Des restrictions en vue d'ici demain à Lyon et Nice. Les préfets doivent remettre leurs préconisations au gouvernement pour enrayer la progression du Covid. Un durcissement des mesures pourrait aussi être décidé à Marseille et en Guadeloupe. Pour le dépistage, le gouvernement mise sur de nouveaux tests plus rapides. 5 millions de tests antigéniques ont été commandés. La Haute Autorité de Santé rendra son avis dans la journée sur les tests salivaires. De son côté, l'OMS s'inquiète du niveau alarmant de transmission du virus en Europe. Le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril. Et puis en Israël, reconfinement totale des 9 millions d'habitants à partir d'aujourd'hui et pour 3 semaines. La SNCF mettra environ 2 ans à retrouver son niveau de trafic d'avant la crise, annonce de son PDG Jean-Pierre Farandou ce matin dans Les Échos. 2000 fleuristes ont mis la clé sous la porte depuis le confinement, un chiffre que vous révèle Europe 1 ce matin. Ça représente une boutique sur 7 en France. Emmanuel Macron est attendu à Condom dans le Gers. Aujourd'hui, le chef de l'État va visiter l'hôtel de Polignac, l'un des 18 monuments en péril qui a bénéficié du premier loto du patrimoine en 2018. Et puis le foot, Saint-Etienne prend la tête de la Ligue 1 après sa victoire hier soir à Marseille 2-0.
Merci Hélène Zélani. On part sur les routes du Tour de France.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du Tour, c'est avec vous Marguerite Lefèvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on commence avec cette image qui est, il faut le dire, rarissime sur le Tour de France. On a vu hier 2 coureurs passer la ligne d'arrivée main dans la main.
Oui, tout sourire, Richard Carapaz et Michał Kwiatkowski, un ancien vainqueur du Tour d'Italie et un ancien champion du monde, rien que ça. Tous deux équipiers d'Egan Bernal chez Ineos et donc orphelins de leur leader depuis l'an du Colombien. Ils avaient un seul objectif hier, remporter l'étape au Vélo de leur équipe. Eh bien, ils ont même fait coup double, puisque assuré d'obtenir le maillot à poids de meilleur grimpeur, Carapaz a laissé la victoire d'étape à son ami Kwiatkowski. Derrière cette image assez rafraîchissante, eh bien, il y a eu de l'action dans le peloton favori, de nombreuses attaques dans ce groupe, réduit dans le final à la portion congrue, la crème du vélo international qui a doublé, avalé Nicolas Hédé, échappé malheureux.
Il y avait vraiment des leaders partout. Voilà, on est en 3e semaine de tour, c'est vraiment... C'est une course d'homme, quoi. Ça se fait à la jambe et à la tête, quoi. À la tête.
Et dans cette bataille des favoris, le maillot jaune a bien été attaqué, mais Primoz Roglic a résisté sans grande difficulté d'ailleurs. Il est toujours aujourd'hui leader du classement général.
Le peloton a terminé avec les Alpes. Retour tout à l'heure à un tracé beaucoup plus calme.
Ouais, 19e étape qui devrait faire du bien aux coureurs, une journée de respiration après la montagne et avant le contre-la-montre de demain. Il y aura tout à l'heure 166 km à parcourir entre Bourg-en-Bresse et Champagnole dans le Jura, sans grande difficulté. Une étape a priori tracée pour les sprinteurs, mais avec la fatigue qu'ils ont accumulée dans les Alpes, le scénario n'est pas écrit à l'avance. C'est ce que pense Jérôme Pinault, le manager du sprinteur français Brian Coquard.
Ça peut être un sprint, ça peut être un sprint. C'est une étape sur le papier dédiée aux sprinteurs, mais ça peut être aussi un gros groupe d'échappés, comme on a connu par les tours passés dans cette fin de 3e semaine où tout le monde est un peu fatigué et on retrouve un vainqueur d'étape qui a bien récupéré et qui est capable de passer les bosses.
Arrivé au sprint ou échappée victorieuse, on le saura tout à l'heure, arrivé aux alentours de 17h40.
Merci Marguerite Lefèvre, c'était le journal du Tour.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Énergie. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le temps avec vous, Laurent Cabrol.
Et avec ces pluies qui arrivent et qui franchissent en ce moment les Pyrénées et qui se situent au Pays Basque et commencent à arriver vers le Pays Basque, les côtes atlantiques seront concernées avant ce soir. Et puis nous avons un gros paquet de pluies qui se situe actuellement dans le golfe de Gascogne. Bref, c'est le changement de temps qui s'opère et un changement qui va s'opérer dans les 48 heures qui viennent avec des orages, avec de la pluie, des pluies très fortes demain sur les Cévennes. Ce seront les fameux épisodes Cévenol. Les vents vont tourner au sud, enfin bref, le temps change. Je crois qu'il faut quand même bien se mettre à l'esprit, avoir à l'esprit que le temps va changer dans la journée de demain et surtout d'après-demain, et que nous allons ensuite courir, si je puis dire, vers un changement total de régime, c'est-à-dire que nous passerons à un régime d'ouest avec de la fraîcheur, et tout ceci à partir de mercredi prochain. Donc un changement qui va s'opérer, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Si ça dure, ou alors j'ai un petit doute quand même, je pense que ça va durer. Si ça dure, eh bien ça veut dire que on entrera ce jour-là, c'est-à-dire mercredi prochain, dans un épisode automnal. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Notre santé, avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour mon cher Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, Jimmy, vous m'avez confié qu'on vous posait toujours les mêmes questions en consultation, et vous êtes élégant, vous dites en consultation et pas dans les couloirs d'Europe 1, à propos du Covid. Ce matin, nous allons y répondre de la façon la plus claire possible, avec une série de petites questions comme ça. Première question, quand est-ce qu'on est un cas contact?
Eh bien, un cas contact, c'est très simple, c'est tous les membres de votre foyer. Si jamais vous avez eu un contact direct avec un cas en face à face, à moins d'un mètre, fait de vous aussi un cas contact. Si jamais vous avez partagé un lieu clos comme un bureau, une salle de réunion, même un taxi pendant au moins 15 minutes, vous êtes aussi un cas contact. Mais attention, si tout le monde porte un masque, à la fois le malade et le cas contact, eh bien à ce moment-là, vous ne faites pas partie des personnes à isoler et donc on ne vous considérera pas comme à risque.
Alors, quand aller se faire tester justement quand on est un cas contact ?
Eh bien, il faut faire un test au bout d'une semaine. Alors, si jamais vous êtes dans le même foyer, il faut se faire tester tout de suite et puis attendre la guérison et se faire tester au bout d'une semaine. Mais pour les autres personnes, c'est le test à une semaine, c'est le temps de l'incubation. Et attention, quand vous êtes du coup suspecté d'être un cas contact, vous devez rester à l'isolement, demander un arrêt de travail. Et attention, une fois que vous avez fait le test, il faut attendre le résultat. Ne retournez pas travailler, même si ça met du temps, tant que vous n'avez pas le résultat qui soit négatif ou positif.
Alors justement, si le test est positif, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut retourner au travail ?
C'est très simple, c'est au bout d'une semaine. C'est la période de contagion plus ou moins maximale qu'on peut avoir. Et vous n'avez pas besoin de faire de test PCR de contrôle. Vous n'avez pas besoin de certificat d'aptitude du médecin. Une semaine après le début de vos symptômes, vous pouvez retourner aller travailler sans problème.
Faut-il aller voir son médecin si on pense avoir le coronavirus ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement au laboratoire ?
Oui, il faut aller voir votre médecin puisqu'il pourra vous donner une ordonnance. Vous êtes censé être prioritaire dans les laboratoires pour vous éviter la queue comme au fast-food. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le coronavirus, mais aussi d'autres infections qui parfois peuvent être plus graves. Et donc, toute fièvre n'est pas du coronavirus et tout maux de ventre ou tout symptôme qui vous paraît un peu bizarre peut révéler une pathologie parfois un peu plus grave. Donc oui, il faut aller voir votre docteur.
Si je n'ai pas de symptômes particuliers, est-ce que je dois me faire tester, Jamie ?
Non, aucun intérêt. Laissez la place au cas contact et aux personnes malades. Éventuellement, si vous avez pris beaucoup de risques, vous étiez dans un bar blindé, on peut se poser la question, mais demandez conseil à votre médecin plutôt que d'aller au laboratoire à la volée.
Jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir porter un masque, Jimmy ? C'est la réponse à ça.
Alors, soit à partir du moment où on aura un vaccin, on pourra peut-être se libérer un petit peu plus, ou si on atteint une immunité collective, on en est bien loin. Pour l'instant, le masque est notre seul outil de défense face au Covid.
Un enfant qui a le nez qui coule, est-ce qu'il faut le tester ?
Non, tous les nez qui coulent ne sont pas du coronavirus, donc par pitié, pas d'éviction de la collectivité, c'est la Société française de pédiatrie qui le recommande, et vous n'allez pas courir chez le médecin réclamant une PCR, tout au plus, allez voir votre docteur, vous aurez une consultation, il pourra vous rassurer, mais le nez qui coule chez l'enfant n'est pas un symptôme de Covid.
Merci Jimmy Mohamed, c'était très complet, ces questions que vous recevez très régulièrement autour du Covid, ça fait du bien de réentendre aussi quelques informations que vous venez de nous donner. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, que l'on retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez. 8h40, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
La sécheresse extrême est à l'origine des incendies californiens, mais vous nous dites que dans d'autres parties du monde, ce sont les orages qui font des ravages.
C'est bien ça. La foudre serait aussi une grande tueuse de forêt, la cause la plus dévastatrice après la déforestation, particulièrement dans les zones tropicales qui concentrent la moitié des massifs forestiers de la planète et où les orages sont les plus nombreux au monde, avec chaque année, tenez-vous bien, 800 millions d'arbres qui seraient touchés.
Les études sur les arbres et la foudre sont très récentes.
Pour ne pas dire toute neuve, pour la toute première fois, une étude a révélé l'ampleur du phénomène. Seulement une poignée de chercheurs planche actuellement sur le sujet et ce n'est que très récemment qu'ils ont mis en évidence cette nouvelle foudroyante, car auparavant, il était vraiment impossible de suivre en temps réel la foudre qui est imprévisible avant de frapper. Mais les systèmes de détection ayant évolué, superposés aux données satellitaires aujourd'hui, on sait faire. Lorsqu'un éclair touche la cime d'un arbre, la décharge part instantanément jusque dans les racines qui, elles, sont interconnectées avec d'autres arbres voisins. Et là, c'est un strike. Un coup de foudre peut atteindre jusqu'à une vingtaine d'arbres à la fois.
Un phénomène exacerbé par le changement climatique.
Bah oui, complètement. Un climat plus chaud devient plus humide car il y a plus d'évaporation et donc nécessairement il sera plus instable et donc plus orageux. La prise en compte de ce phénomène des arbres foudroyés est donc très importante pour l'avenir des forêts, mais aussi du climat, car moins il y a de forêts à cause du changement climatique, moins les forêts vont absorber du carbone et donc plus le climat va se réchauffer. Vous me suivez ? On entre alors dans des effets d'emballement que les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas anticipés.
Merci beaucoup, Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1 à 8h40.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h44, ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On va vous retrouver tout de suite, Mathieu Béliard, pour l'actualité.
Oui, ma chère Julie. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. L'actualité, bien sûr, c'est cette bonne nouvelle, il faut le dire. Valéry Giscard d'Estaing est sorti de l'hôpital où il était admis pour un problème pulmonaire. Tous nos voeux de rétablissement sincères à l'ancien président.
Je n'ai pas besoin de vos voeux de prompt rétablissement, monsieur Béliard. Regardez-moi. Je vais très bien. Je pète le feu, comme disaient les jeunes. Incroyable, Bibi. Non, croyez-moi. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. J'ai tous ces intérêts, moi, les Le Pen, les Juppé, les Arcolon. Non, croyez-moi, je dois vous laisser. Je prends ma trottinette électrique et je file. Allez. Je suis pressé, je dois me préparer pour ce soir. J'ai organisé une soirée mousse à la maison.
À votre âge, quoi ? Une soirée mousse ?
Oui, une soirée mousse. Tout de suite, je vois les allusions, M. Mohamed, qui est un habitué d'Ibis. Ça. Une soirée mousse foie de volaille, deux foie de volaille, mousse de légumes, d'accord. Et on finit avec une mousse au chocolat. Parce que c'est facile à mâcher. Je pète le feu, d'accord, mais j'ai quand même l'âge que j'ai.
Merci, monsieur le président. Vous êtes en pleine forme, c'est
merci,
très bien.
Merci, monsieur le président. On est rassuré. Et puis l'autre info, c'est bien sûr le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est intervenu hier pour rassurer les Français. C'était sa mission hier en direct. On recoute d'ailleurs un extrait de son intervention.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette conférence pour faire un point sur la situation du virus dans notre pays. Je ne vais pas vous mentir, l'épidémie est à nouveau très active sur notre territoire. La contagion est à la hausse. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le vaccin n'est pas pour demain. La saturation des hôpitaux menace. Les vieux vont mourir. Les jeunes se contaminent. Des vieilles dames courbées ont été recrutées, voûtées pour pousser des charrettes remplies de malades.
Oh là là.
Je reviendrai la semaine prochaine lors d'un nouveau point pour rassurer les Français.
Oh bah non, ce sera peut-être pas la peine. Hein. Merci, non. C'était Olivier Véran. Hier, c'était la première journée d'action sociale contre le gouvernement Castex. Un appel à la grève avait été lancé par la SNCF, par exemple. Une grève assez peu suivie, il faut bien
ça
dire.
Ça jubile.
On va en parler avec notre syndicat, délégué syndical cheminot, monsieur Régis.
Bonjour, même Julie, bonjour à tout le wagon. Le wagon bleu.
Oui.
Le wagon bleu. Grève peu suivie, vous dites. Grève
peu suivie.
Ouais, je t'en foutrais. Ta grand-mère, elle est un peu suivie aussi. C'était juste un tour de chauffe. On a le droit de faire des tours de chauffe. Hein, après des mois d'arrêt, fallait bien un petit tour de chauffe, un petit décrassage. C'est un petit, comme un petit match amical.
C'est ça. Écoutez, on ne comprend pas très bien le but de cette grève. Hein. L'État a pris à sa charge plus de 30 milliards d'euros de dettes de la SNCF et le plan de relance prévoit une enveloppe pour les transports. Bah, c'est bien, non ?
Ben justement, c'est trop bien.
Ah bon ?
C'est trop bien si le gouvernement règle tous les problèmes de la SNCF. Non, c'est trop bien. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui va nous rester si règle tous les problèmes la SNCF ? Qu'est-ce qui va nous rester comme prétexte pour faire grève ?
Et d'accord.
Voilà.
Et oui.
On a un coup d'avance, nous les syndicats. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous, on a besoin qu'il y ait des vrais problèmes qu'on ne résout pas pour conserver nos emplois. C'est une bataille pour notre travail qui consiste, je vous le rappelle, en grève à pas travailler.
Et dites-moi, sur le front social, est-ce que vous êtes solidaire des ouvriers de Bridgestone ? On rappelle que le groupe a annoncé la fermeture de son usine de Béthune.
Ben, si on est solidaire, bien sûr, c'est scandaleux, on a besoin de cette usine. Mmh. Hein, puis des pneus, on en utilise, nous.
Ah bah oui, pour les voitures. Oui.
Non, pour les brûler. La lourdasse.
Lourdasse.
Oui, j'ai inventé, c'est déposé. C'est cette usine de Bridgestone qui nous fournit tous les pneus qu'on brûle dans les manifs. Hein, ou au pied des préfectures aussi.
Oui, c'est
là
ça.
Là encore, il n'y a aucun respect des emplois des syndicats. C'est quoi ? C'est la guerre qu'ils veulent, même Julie ? Monsieur Béliard, vous croyez quoi ? Hein, ils veulent la guerre ? Ben, ils vont la voir. Préparez-vous, hein, parce qu'il y a une prochaine manif qui va arriver. On va en faire brûler du Bridgestone. Avec un peu de chance, il y aura besoin d'en reproduire encore en urgence des pneus. Et là, du coup, ça a sauvé des emplois. La blouquée. Les vedettes.
Merci, monsieur Régis. Notre ministre de l'Intérieur a redit cette phrase sans équivoque. La drogue, c'est de la merde. Bonjour, Gérald Darmanin. Oula.
Oui, salut les biloutes.
Les biloutes.
Descente de police. Oui, j'ai l'impression d'être dans le film Transporteur. J'ai mis la musique de Miami Vice, même si je suis de Tourcoing. Oui, à Tourcoing, oui, parce qu'il y a assez peu de séries américaines d'un succès tourné à Tourcoing. Effectivement, vous avez raison.
Alors, contre la drogue, quelle est votre méthode, en fait?
Ma méthode, quelle est-elle? Eh bien, je vais vous la narrer. Elle est très simple. C'est des flics, des flics, des flics, des flics. Hein, et des descentes de flics. Voilà, des caméras, des phrases choc en bas des immeubles, comme « Madame, vous voulez qu'on vous dérase des racailles ?» Eh bien, on va la passer au jet d'eau, votre cité des 2000.
Non, 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 attendez, la vraie phrase, c'était pas ça. C'était au Karcher, la cité des 4000.
Oui, je sais, mais comme je fais tout comme Sarko, mais en moins bien. Allez. Bon, écoutez, moi j'ai du travail, je vais commencer à buter tout de suite. Allez, sortez vos joints, là, tous les drogués.
Enfin, il n'y a personne qui se drogue dans ce studio.
Personne ne se drogue, bien sûr. Non. Allez, faux témoignage. Brigadier, vous me la bouclez après l'émission. Oui, son mari, Gérard Leclerc, viendra la chercher demain matin.
Ah, bah d'accord.
Monsieur Cabrol. Cabrol. Oui, monsieur Cabrol. Bah, oui. Vous êtes, commencez pas à vous déshabiller, vous êtes dispensé de fouilles. L'anis et les liquides distillés ne sont pas sur ma liste. Par contre, on va demander au docteur Jimmy Mohamed d'ailleurs de vous raccompagner. Hein, et surtout, ne prenez pas le volant, monsieur Cabrol. Non, ne prenez pas le vélib non plus. Ne prenez pas les baskets non plus. Hein, on va vous déposer. Alors, monsieur Béliard.
Présent.
Oui, vous croyez que je vous ai pas à l'œil? Vous avez tous les signes extérieurs du drogué. Hein, vous jouez de la guitare, vous avez les cheveux longs et vous avez des fous rires compulsifs. Je crois qu'on n'a même pas besoin de tester le gars Béliard. Hein. Ça pue le cannabis à plein nez. Je pense que c'est Fanny Agostini qui cultive de la beuh à la campagne qui délivre.
Oh, ça y est.
Demande de vous arrêter de fumer du cannabis, monsieur Béliard.
Ah, Edouard Philippe. Eh ben, on a appris que vous étiez positif au Covid. Qu'est-ce que j'ai dit, Edouard Philippe? Non, c'est Edouard Balladur. Malade. Monsieur Balladur, pardon. Vous avez bien reconnu pourtant. On a appris que vous étiez positif au Covid.
La voix était pourtant parfaite. Ah oui. Vous n'avez pas d'ambiguïté pour une fois.
Lapsus total. Allez, vous avez une idée d'où vous avez pu attraper ce virus?
Où est-ce que j'ai attrapé le virus? Écoutez, je pense que très certainement, c'est quand j'étais à Ibiza avec Neymar sur le bateau avec les 12 escortes. Mais quelle question conne, franchement. Oh, la lourdasse.
Merci, monsieur Balladur. L'usine de pneus Bridgestone à Béthune va donc fermer. Conséquence directe, 863 emplois seront supprimés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a qualifié cette décision de révoltante. Bonjour, monsieur Le Maire.
Oui, c'est révoltant. Bonjour, madame Leclerc, monsieur Béliard et tout. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, je suis en colère. Oui, vous le sentez au ton de ma voix. Parce que vous savez, moi, je croyais que ça allait ruisseler. Hein, quand on donne des milliards d'euros à des entreprises, on espère qu'ils distribueront au moins des dizaines d'euros de centimes à leurs employés. Eh bien, savez-vous que même pas.
Bah, c'est un peu naïf,
même
pas. Franchement.
Et sur ce point, il n'y a pas de débat.
Mais quelle naïveté, franchement, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment surpris de les voir quitter Béthune.
Écoutez, sincèrement, pas plus que ça, parce que personne ne peut être surpris de voir quiconque quitter Béthune. La seule raison pour laquelle ils font des pneus à Béthune, c'est pour permettre aux gens de sortir de Béthune plus rapidement.
Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Nicolas Sarkozy s'en est encore pris aux écologistes. Invité à une conférence, il a profité de sa tribune pour se moquer des écologistes qui sont, selon lui, ceux qui défendent les crapauds à poils jaunes et poils bleus et qui sont contre tout ce qui est moderne. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Bonjour, Mme Gély. Bonjour. Merci de m'accueillir, monsieur Béliard, monsieur Mamet, monsieur Cabrol. Écoutez, tutti quanti. Écoutez-moi. Que j'entends-je? Je fais une critique hier et maintenant aujourd'hui, c'est de bon ton, c'est malin. On critique ma critique. Non, mais franchement, je me pose la question. Mais décidément, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Hein, déjà qu'on n'a plus le droit de liser tranquillement le merveilleux roman d'Agatha Christie, Les 10 petits singes. Et maintenant, on ne peut plus dire que les écolos sont ceux qui défendent les crapauds et voudraient qu'on soit reviendu à la préhistoire.
Mais
c'est ça.
Non,
ah, c'est sûr qu'il y en avait des crapauds à la préhistoire.
Mais ils ne vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre.
Vous pouvez témoigner, Mme Julie.
Franchement, on ne va pas faire ça tous les jours non plus. Hein. qu'est-ce que je voulais dire?
C'est ligne 4, page 7, alinéa 3.
Ils ne vont pas nous renvoyer à l'âge l'âge de pierre, les écolos. Qu'est-ce que vous racontez?
Écoutez, ils ne vont pas nous renvoyer l'âge de pierre. Mais qui veulent nous renvoyer l'âge de pierre, Paul ou Jacques? Ça ne change rien.
Oh là là.
Oui, bon, une bonne vanne dans, dans une chronique de 10 minutes, ça ne se refuse pas. Un petit jeu de mots. Écoutez, non, mais à cause des écolos, on n'a plus le droit de manger. De quoi? On n'a plus le droit de manger un steak de rhinocéros blanc dans son 4x4 avec le moteur qui tourne. Mais où va-t-on? Moi, je vous le dis, M. Mohamed, droit dans les yeux, on nous enlève nos libertés.
Monsieur Sarkozy, la défense de l'environnement, c'est pas juste la défense des petits oiseaux. On vit dans notre environnement. Ben, c'est logique, on en prend soin, quoi.
Et allez, la Mme Julie qui est contaminée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Julie? Vous avez mangé du Yannick Noah au petit déjeuner, hein? Vous lisez un texte qui a été écrit par Bob Marley ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais les Français sont sensibles à la défense de l'environnement. C'est même la raison du succès des Verts aux municipales. Hein, un succès dont vous avez dit qu'il n'était pas un signe de progrès.
Mais non, mais écoutez, le progrès, écoutez, Mme Julie, le progrès, c'est pas de manger bio, de trier ses déchets, d'arrêter d'exploiter des enfants dans des mines de terres rares ou de nettoyer les océans. Hein, mais vous verrez qu'il y a encore des gens qui vont trouver ça très bien.
C'est quand même étonnant. Hein. Vous êtes à l'origine du Grenelle de l'environnement. On vous pensait un petit peu plus écolo, M. Sarkozy.
J'ai toujours été, hein. mais à ma façon. Hein, j'ai recyclé tout un tas d'idées. Mme Le Pen, par exemple, c'est ma façon de recycler, ma façon à moi de promouvoir les circuits courts. Bon, voilà, vous m'avez compris.
Oui,
bon,
oui,
allez,
oui,
je vous laisse.
Oui, oui, oui.
Je vous laisse les babas cool. Hein, okay. Moi, j'ai un jet privé qui m'attend pour aller chez Carla au Cap Singe. Voilà. Oui, ben on n'a plus le droit de rien dire. Il faut réviser sa géographie.
Bah, du coup, on vous
faut
laisse.
L'amender.
Allez, merci, M. Sarkozy.
J'en prie.
Et puis, un petit mot avant de nous quitter de notre ami Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé qu'il allait quitter le trésor de TF1.
Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. À 70 ans, je crois que j'avais le droit à une retraite bien méritée.
Mais oui, vous allez pouvoir enfin vous balader dans les petits villages que vous aimez tant. Hein, dans
les petits villages que j'aime tant, mais ça ne va pas? Non, mais ça, jamais de la vie. Ça fait 30 ans. 30 ans, vous m'entendez, que je m'emmerde à parler des villages de Razon-le-Dindon, hein, de Gratouilly-sur-les-Croûtes, des habitants de Bouzillon-la-Crémière, de Tougrasse et de Glavio et de Bourg-les-Rouquines. J'en ai ras le melon. Je veux me barrer à Ibiza ou Las Vegas au choix.
Bon, mais calmez-vous,
Jean-Pierre. Je veux rouler en Maserati orange à Mykonos, plonger dans une piscine de champagne à Barbella. J'en ai plein le derge du rural. Laissez-moi, putain, qui fait ma race. Salut les bouseux.
Et bravo, merci et bravo Nicolas Canteloup et Julie, on vous retrouve lundi, la revue de presse à réécouter sur Europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. 8h57 sur Europe 1, la matinée continue avec Philippe Vandel, Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre info média du jour, ce sera un livre qui répond à une question très actuelle. Pourquoi tant de haine envers les médias? Réponse avec François Josse, c'est l'auteur du livre, spécialiste des médias évidemment. Ensuite, le présentateur Bernard de la Villardière et le journaliste Arnaud Levert pour une enquête exclusive en Algérie. Là-bas, vous le savez, manifester est passible d'un an, voire deux ans de prison, filmé quasi impossible. Ils sont restés plusieurs mois dans ce pays où un journaliste vient d'être emprisonné pour deux ans, juste pour avoir fait son métier. On en reparlera évidemment. Et puis Anne Scott, la romancière, roman culte en 2000, ça s'appelait Superstar. Madonna avait voulu racheter les droits. Elle revient avec un nouveau roman totalement hors norme, consacré à la lutte contre le djihadisme. Roman incroyable, ça s'appelle « La grâce et les ténèbres ». Elle sera avec nous.
A tout de suite pour Culture Média. Et pour ma part, j'allais dire à demain. Non, à lundi, c'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller demain, après-demain, ce week-end sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Lundi matin, en direct, je serai là à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.